Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. C'est ma fête et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense que je dois vous avouer que j'ai bu un petit peu trop de shooter de Calvados hier. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait ça. Et tu sais le moment là où t'es au resto puis que tu te dis, bon, ça c'est comme le point de non-retour. Je le sais que je n'ai pas besoin de ce verre-là pour avoir plus de fun. Ma fille appelle ça le verre de trop. Elle dit, maman, quand tu prends... c'est ça. J'ai presque dansé aux tables, par ailleurs. J'étais rendue là, là. Non, mais je parlais très fort. Sérieux, je disais à mon chum en sortant, ça fait un an que j'ai pas vu de monde. Je suis comme all over the place. Là. J'étais super lourde. D'ailleurs, mes excuses peut-être aux gens qui étaient près de moi, au chien fumant, la fille contente qui riait fort. C'était moi. Mais tout ça pour dire que c'est ça. J'ai franchi le Rubicon. J'ai pris le verre de trop qu'on m'a tendu en sachant très bien les conséquences qui allaient s'en suivre parce que à 39, c'est pas comme à 19. Quand tu bois un peu trop le soir, ça prend 5 jours sans remettre, même si tu fais du déni, même si tu essaies de dire le contraire. Donc, ce matin, là, je me suis réveillée à 6h39. Vous savez, là, tu te réveilles de bonne heure parce que là, dans le fond, le sucre de l'alcool vient de redescendre. Puis là, tu as des petites suées dans ton lit. Là. C'est ça que j'ai expérimenté ce matin. Donc, vous
soyez
avez...
flexible, soyez accommodant.
Oui, bien, c'est ça. Vous avez une animatrice de mauvaise vie, mais c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de parler toutes sortes de sujets intéressants, à commencer par ce qui se passe dans les prisons. C'est un truc, moi, qui me chicote aussi avec Frédéric, le rechercheur de l'émission. Le sort des prisonniers par rapport à la COVID-19, on avait parlé à quelques reprises à une avocate en droit carcéral. Là, il y a un article qui est sorti sur Radio-Canada sur le fait que la campagne de vaccination, elle a tardé avant d'arriver dans nos prisons, puis que les établissements carcéraux ont été pour certains des hauts lieux d'éclosion durant les moments où on avait le plus grand nombre de cas et les pics pandémiques. Il y a même des détenus qui en seraient morts là, dans l'article de Radio-Canada. La sœur de l'un d'entre eux témoigne. Elle a vraiment l'impression qu'on a laissé, entre guillemets, mourir son frère de la COVID. Puis je le sais que quand on parle des prisonniers, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, ben là, on manquait du vaccin, voir qu'on va aller vacciner des prisonniers en premier. Ces gens-là ont fait des crimes, ils sont en prison, c'est pas des bonnes personnes. Ben oui à tout ça, là, mais en même temps, ils sont pas en si grand nombre que ça. Et si c'est pour éviter justement une éclosion puis sauver des vies, là, je veux bien croire que ce sont des prisonniers, mais on a une certaine responsabilité quand on incarcère des gens. Ils sont en milieu fermé. Tu sais, c'était comme la soupe parfaite là, pour que le virus puisse se répandre comme ça. Donc, on va parler avec Justin Piché, qui est criminologue, un peu plus tard à l'émission. Évidemment, COVID, un chiffre qui est quand même très, très, très encourageant. Moins de 200 personnes qui sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID. Donc, tu sais, on sait, là, les hospitalisations, c'est un peu tout le temps un chiffre qu'on surveille. Là, la tendance à la baisse se poursuit aussi à ce niveau-là. Au niveau des cas, on en a un peu plus qu'hier, mais on est toujours sous la barre du 200, 153 nouveaux cas, aucun décès supplémentaire. Donc, vraiment, là, ça va bien. Puis là, je commence hier au resto la discussion, là, parce qu'on était à 2 mètres des autres clients, mais on se parlait un peu entre nous. C'est nouveau variant, là, le variant... Comment on l'appelle, là? Je pense que c'est le variant Delta. Il y a eu beaucoup de spéculations. Est-ce que la couverture vaccinale, ça va fonctionner? Là, ce qu'on sait, là, c'est que ça empêchera 90 % de se ramasser à l'hôpital si on attrape ce variant-là. Mais il y a quand même beaucoup d'inquiétudes avec tout ça. Puis, bon, hier, on parlait de la vaccination chez les jeunes, les 18-39. Là, c'est-tu les 18-39 ou les 18-34? Je pense que c'est les 18-39. Finalement, M. Dubé, hier, il se promenait... dans ces
pour l'instant, il reste que c'est presque difficile à comprendre.
Mais c'est difficile, moi. En tout cas, Là, je comprends que ceux qui ont en bas de 40 ans, disons ça de même, là, il me reste un an en passant pour avant de passer dans l'autre catégorie. Je vais en profiter de chaque seconde. Mais ceci dit, c'est ça. On se questionne encore à savoir pourquoi on répond pas en si grand nombre que ça pour la vaccination. Le 170 000 personnes quand même qui restent. On peut toujours prendre rendez-vous. Là. Puis je rappelle au passage que le fameux portail, là, si on a de la misère à s'authentifier, disponible à compter d'aujourd'hui pour recevoir la deuxième dose. Mais si je me fie à ce qui se passe sur les médias sociaux, paraîtrait-il que ça ne fonctionne pas si bien non plus à ce niveau-là. Là. Plusieurs personnes qui éprouvent des problèmes avec le portail. Mais revenons aux jeunes parce qu'on va aller parler avec notre ami Benoît Barbeau qui est virologue. Benoît, salut.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ben ça va bien parce qu'on a des bons chiffres.
Oui.
C'est encourageant. On voit vraiment la lumière au bout du tunnel. Puis là, je veux pas qu'on parle tout de suite du variant Delta, OK? Pas tout de suite. Non, je veux vivre encore dans le déni une couple de minutes. Là. Je veux qu'on se parle des jeunes. Là, on dirait qu'on sait plus quoi faire là, pour encourager les jeunes à aller se faire vacciner. Jeunes adultes qui traînent de la patte, qui se pointent pas au rendez-vous, qui se sentent peut-être pas autant concernés que d'autres tranches de la population. Là, il y a du monde qui disent, ben peut-être qu'ils sont donnés des prix, des cadeaux, ça se pointerait en plus grand nombre. Là, on sait qu'aux États-Unis, ça s'est vu. Il y a des villes qui offraient une bière quand on allait se faire vacciner. Il y a même eu une loto de la vaccination, là, un prix d'un million qui a été remporté par une dame, je crois. Mais là, ben c'est pour vrai. Là, entre toi et moi, par bas, tabac. Moi, c'est pas parce que tu me dis, moi, te donner un bang que je vais aller me faire vacciner. C'est vrai que le cadeau soit pas pire, tu sais.
Non, en effet, je crois qu'il y a quand même en ce moment une énigme à savoir pourquoi cette tranche de la population ne se fait pas vacciner ou bien est-ce qu'elle est hésitante.
Ouais.
Alors, à savoir si il y a probablement un aspect qui peut être dû à l'hésitation. Est-ce qu'à quel point ça contribue? Je crois que c'est quand même minime. Certainement, ils ont baigné un peu plus que les autres dans les certaines inquiétudes par rapport au vaccin d'AstraZeneca, aussi par rapport au les problèmes de myocardite, parce qu'il y avait les jeunes adultes quand même qui étaient touchés par le vaccin Pfizer. Ça peut contribuer.
Je pensais que c'était les ados, ça, la myocardite.
Oh non, il y a quand même, ça peut, de ce que je comprends, ça va jusqu'à 24 ans. Donc, okay. Les analyses ont été un peu plus hautes. Les ados sont touchés également, mais ça va aussi au-delà des ados que la fréquence de cas de myocardite est un peu plus élevée. Mais autrement, on m'a posé la question hier et puis je peux vous dire c'est très difficile à savoir exactement ce qui se passe, mais d'être capable de les convaincre ou plutôt de les pousser vers les sites de vaccination, la fameuse carotte au bout du bâton, je crois que la meilleure façon justement de leur proposer de se faire vacciner, c'est ce qui s'en vient, vous savez, en d'autres mots, tout ce qui tout ce plan de match que le gouvernement nous a lancé qui vise à déconfiner, à nous permettre de faire justement des activités qu'on veut, qui sont en train de désirer, et bien ça, en soi, ça passe par une vaccination qui est efficace et qui couvre une grande proportion de la population québécoise. Alors, moins qu'il y a des gens qui vont être faire vacciner, plus que le gouvernement va être hésitant à réouvrir, continuer justement à relâcher les mesures. Et également, bien, plus qu'on risque d'avoir un problème à l'automne. On ne doit pas s'en cacher, là. Il va y en avoir sûrement une quatrième vague. Maintenant, cette quatrième vague-là pourrait être. Je sais, mais attendez. Peut-être petite quand même. Prend en panique lorsqu'on voit les cas de grippe qui augmentent à l'automne.
C'est vrai.
C'est un virus saisonnier. Alors, on doit s'attendre à ce que le nombre de cas d'infection va augmenter. Le virus ne va pas disparaître durant l'été. Il va continuer à se transmettre, mais sûrement à moins de niveau. Il va y avoir probablement une augmentation, ou sûrement une augmentation à l'automne. Mais maintenant, si vraiment on a des problèmes au niveau de la campagne vaccinale, peu importe quelle tranche d'âge qui est considérée, ceux qui peuvent être vaccinés, bien, c'est certain que le virus va être plus rampant et on va avoir probablement une situation qui pourrait être plus complexe qu'elle devrait l'être à l'automne.
Vous parliez de la carotte et du bâton. Le Christian Dubé qui essayait un peu de semer la compétition entre les jeunes et les jeunes. Si on veut, on sait que les 12-17, ils vont massivement. Oui. Moi, ma petite théorie là-dessus, là, c'est que les ados, ils veulent pas revivre une année scolaire comme ils ont vécu. Ils veulent pas être privés de leurs amis. Alors que chez les 18-39, on a plus de liberté. Il y a peut-être des gens qui ont pris des largesses. C'est rien passé. Ils se sentent pas trop concernés par la COVID. Donc, je sais pas quelle carotte on pourrait leur faire miroiter. C'est ça l'affaire. Pourquoi on continue à vivre leur vie?
Des 18 et 39 ans, il y a le côté invincible. Des amis, on connaît des gens qui ont probablement été infectés, ils n'ont pas eu de symptômes, donc tout va bien. Au niveau des 12 à 17 ans, quand même, 17 ans, donc il y a quand même une bonne organisation qui a été mise de l'avant. Donc, on a été dans les établissements scolaires, il y a des autobus scolaires qui ont été organisés. À quel point, justement, les parents qui peuvent être en dehors de la tranche de 18 à 39 ans sont plus convaincants auprès de leurs enfants. Donc, il y en a quand même, donc du 12 à 17 ans, il y en a certains, évidemment, les plus jeunes ont besoin d'une autorisation parentale. Est-ce que ça peut jouer, dépendamment, évidemment, l'âge des parents? Mais n'empêche que je crois que le gouvernement a misé beaucoup sur la tranche de 12 à 17 ans avec une organisation qui était très bien structurée pour s'assurer que ceux-ci sont vaccinés après avec une première dose et que la deuxième dose sera aussi distribuée très rapidement pour le retour à l'école à l'automne. Parce qu'on comprend que en ce moment, les éclosions, ben, donnent le travail, puis à pourcentage équivalent de ce que j'ai pu voir sur le site de l'INSPQ, c'est et les établissements scolaires. Alors, c'est certain que ceux-ci contribuent et on veut être bien préparés. Après coup, entre le 18 et 39 ans, ben, c'est une partie de la population qui est active. Il faut vraiment qu'elle, étant donné qu'elle est si active, il faut extrêmement être vigilant, s'assurer qu'elle soit vaccinée parce que, étant très active, ben, les autres vont justement faire bouger le virus, vont le transmettre. Alors, si on ne protège pas l'ensemble de la population en s'assurant que cette partie de la population est vaccinée à pourcentage élevé, mais on pourra, comme je dis, se retrouver à une situation qui est loin d'être désirable à l'automne. Alors, je crois que le gouvernement a besoin certainement de les encourager, mais il faut que le message soit clairement passe bien, puis qu'il faut vraiment aussi avoir le pouls, savoir exactement la raison pourquoi il y a eu certaines hésitations. Ouais,
on revient toujours à... Oui, allez-y.
On parle le pourcentage entre 18 et 39 ans et les plus jeunes, il n'y a pas une grosse différence. On parle de quelques pourcents. Alors, malgré... Le seul point, c'est qu'évidemment, les jeunes ont commencé un peu plus tard que les 18 à 39 ans. Donc, il y a comme un décalage déjà qui se voit là. Alors, c'est vraiment un peu énigmatique. Il faut vraiment essayer de corriger de la situation.
Bon, oui, puis on revient toujours à ce fameux problème de communication, puis comment communiquer le plus efficacement possible pour que les gens se sentent investis et se sentent, si on veut, on le dit, là, un effort individuel pour la collectivité, c'est un peu ça, c'est sur ce clou-là qu'on tape.
C'est tout à fait ça.
Bon. Le Centre Bell, parce que là, hier, c'était la grosse affaire, là, puis j'en ai parlé, le premier ministre qui semblait vouloir un peu s'ingérer dans les affaires de la santé publique en disant, bon, le Canadien a demandé d'avoir plus de partisans, parce que là, au Nevada, on va avoir 18 000 personnes. Là, ça serait le fun qu'on en ait plus au Centre Bell. Finalement, on autorise 3 500 partisans. C'était 2 500, là, c'est pas énormément plus. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on a pris la bonne décision?
Ben, moi, je pense que on a vu les scènes là, qui se déroulent au Centre Bell durant les matchs.
Oui, le masque de Marc Bergevin aussi fait juste un beau rond.
Pardon?
J'ai dit le masque de Marc Bergevin fait juste un beau rond. Quand les Canadiens gagnent, mettons qu'ils se bardera pas de ça.
Mais n'empêche qu'on voit que les gens, quand même, c'est sûr que l'ambiance est très festive. Puis on se comprend qu'elle. Et je crois que les concessions sont ouvertes, là, donc je crois qu'il va y avoir aussi, sauf erreur de ma part, là, donc l'alcool va être vendu, mais encore là, sous toute réserve. N'empêche que vous savez, vous êtes dans un environnement festif, les mesures à ce moment-là, disons qu'on les respecte un peu moins, surtout quand, évidemment, le Canadien va compter. Alors, le simple fait, justement, d'être à proximité, que les gens interagissent, avec un masque, je comprends, mais je veux dire, même le masque, là, vous savez, les N95, c'est des masques de très haut niveau qu'on ne porte pas, mais qui sont ils retiennent à 95% les gouttelettes. Les masques chirurgicaux ne contiennent pas 95%, ils vont en contenir moins. Le pourcentage exact, je ne peux pas vous dire, mais n'empêche.
Les masques de procédure là, comportent tous, ça, les.
Oui, okay. Exactement. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas être capable d'empêcher, justement, ces gouttelettes-là complètement être émises. Et le simple fait d'être dans une ambiance où, que vous savez, la proximité va souvent être un peu moins respectée et que les gens sont beaucoup plus vocales, donc crient plus et donc. C'est certain que vous avez quand même plus de risques à transmettre le virus. Simplement parce que vous êtes à l'intérieur, masque va vous limiter, mais n'empêche que vous êtes quand même dans une situation que vous augmentez le risque. Alors, d'augmenter le nombre, c'est toujours un point qui est encore plus important. Donc, vous avez plus de chances que les gens vont éventuellement, il y en a qui vont être infectés. Puis, c'est plus particulièrement important à comprendre face à justement ce variant, il faut dire, le variant Delta qu'on appelle aussi variant indien, oui. qui est en fait plus transmissible que le variant Alpha, celui qu'on appelait anciennement le variant du Royaume-Uni. Alors, faut limiter énormément les contacts. Le masque joue un rôle essentiel, mais vous savez...
Oui, mais M. Barbeau, je m'excuse, je vous arrête là, concernant le masque, parce que moi, je vois un peu qu'il est en train de se produire ce qu'a craignait le docteur Arruda. Tu sais, le masque, là, puis je vais prendre mon propre exemple, là, parce que je pense qu'on le fait tous, là. Tu sais, t'es dans un endroit, il faut porter le masque. Tu le portes, mais là, tu le baisses pour boire. Tu le baisses pour manger. Tu finis par le manipuler. Si tu cries parce que t'es au Centre Bell, à un moment donné, le masque, il peut devenir humide avec la bière mouillée. Fait que, tu sais, à un moment donné, le masque, c'est un faux sentiment de sécurité. On l'utilise mal, la plupart d'entre nous.
Oui, c'est certain. Puis souvent, on voit les gens aussi qui le portent au menton.
Ben oui, puis sur l'oreille, puis avouez.
C'est vraiment la meilleure chose, même si vous le remettez dans au moment nécessaire. C'est certain que le masque a quand même... ce qu'il faut dire, c'est que le masque quand même a changé l'évolution de la pandémie. Son port a été essentiel à limiter la propagation du virus.
Je suis d'accord.
Comme vous dites, donc, à un moment donné, c'est certain qu'on a le port lui-même ou tout simplement l'efficacité lorsque, par exemple, il y a de la sueur qui s'accumule, il y a évidemment un changement de son efficacité. Mais même si ce changement d'efficacité est vraiment présent, le port du masque demeure quand même important. D'autres mots, vous n'allez peut-être pas aussi être optimal dans la rétention de ces gouttelettes, vous allez en avoir moins, mais n'empêche que c'est une barrière qui a un impact essentiel. Comme vous dites cependant, vous portez le masque, vous avez quand même un devoir de garder votre distance au maximum. Lavez vos mains, c'est toujours important. Mm-hmm. Le masque va vous protéger, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul élément qui nous permet justement de contrôler la transmission du virus. Il faut appliquer les autres mesures.
Ouais. Je veux qu'on se parle en terminant. Là, on a fait brièvement allusion au variant Delta. Il y a plein des gens qui pensaient que c'était un nouveau variant. Là, c'est pas un nouveau variant, c'est un autre nom pour le variant indien parce qu'on veut pas stigmatiser des pays en particulier. On s'est beaucoup inquiété de l'efficacité vaccinale sur ce variant-là. Là, on sait, je le disais, 90% de chances d'éviter les hospitalisations, ce qui est quand même une belle protection. Est-ce que ça augure bien pour les futurs variants ou ça veut rien dire?
Mais, en fait, on ne sait pas. Ce qu'on sait, ce qu'on voit, et ce qui est rassurant, c'est que les variants qui se sont développés à partir du virus d'origine, vous savez, comme je disais, les variants, il y en a des multitudes. Donc, il y en a qu'on n'entendra jamais parler parce qu'ils sont aucunement efficaces. Mais les variants qui sont inquiétants, ceux qui deviennent plus transmissibles, qui prennent plus de place. Eh bien, on doit se rappeler quand même qu'il y a celui du Brésil, qui est le Gamma, le Beta et celui de l'Afrique du Sud. Et là, maintenant, on a le variant Delta qui est en fait le variant indien.
Oui.
Eh bien, tous ces variants-là ont accumulé des modifications qui les rendent plus transmissibles et en laboratoire moins efficacement neutralisés par les anticorps chez une personne qui est vaccinée. Mais n'empêche qu'entre ce qui se passe en laboratoire et ce qui se passe sur le terrain, donc lorsque on est dans une campagne vaccinale, il y a quand même une différence. Il n'y a pas juste des anticorps dans la réponse immunitaire, donc il y a d'autres éléments. Mais ce qu'on comprend, ce qu'on voit, ce qui est important, c'est que ces trois variants-là qui ont à chaque reprise ont créé certaines inquiétudes, et je parle de ces trois variants-là, mais il y en a d'autres là, qu'on a entendu parler. Maintenant, on entend celui qu'on appelle le vietnamien. Ils ont tous des modifications au niveau de la surface du virus qui pourraient les rendre moins facilement neutralisables. Mais en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est de l'hospitalisation, pour ce qui est même de l'apparition des symptômes, les vaccins actuels à deux doses demeurent extrêmement efficaces. Alors, extrêmement efficaces sur les symptômes et sûrement aussi très efficaces au niveau de notre probabilité de devenir contagieux si on est infecté. Alors, pour toutes ces raisons-là du monde, en tout cas, ça augure très bien. Les vaccins continuent à faire un travail exceptionnel et malgré l'apparition des variants, eh bien, les variants actuels, ceux qui n'ont pas réussi, on pourrait dire, à contourner l'efficacité qui demeure extrêmement bonne au niveau des vaccins.
Oui, puis je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec la COVID qui ne va pas s'en aller, justement. On va trouver des vaccins, tout ça, pour pouvoir se faire immuniser assez régulièrement, mais ça ne va pas, justement, disparaître, là, contrairement à ce qu'on souhaiterait. Benoît Barbeau, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, M. Barbeau, qui est virologue.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Nicole Gibault est avec nous. Salut, Nicole.
Bonjour, Geneviève.
Bon, écoute, c'est un dossier dont on a parlé souvent toutes les deux, la poursuite contre le site Dis son nom. Là, je fais un bref rappel. Dis son nom, commencé l'été dernier dans le mouvement de dénonciation à tenir une liste où on avait le nom de présumé agresseur. Au départ, c'était pas trop clair ce qui leur était reproché à ces hommes-là. Il y a des femmes aussi sur la liste, mais majoritairement, ce sont des hommes. Après, les listes sont réapparues avec une certaine gradation, là, 1, 2, 3. Et puis pour les gens qui se retrouvaient sur cette liste-là, évidemment, ça pouvait avoir des conséquences assez dramatiques. Ils ont été poursuivis en cour par un homme qui se trouvait sur cette liste-là. Et là, le jugement a été rendu par la Cour supérieure. Ça vient de tomber, là. Ça vient d'arriver.
Oui, bien, c'est ça. Juste avant, je viens d'avoir la décision. Évidemment, je n'ai pas passé à travers tout le détail parce que c'est quand même une très longue décision. Mais je trouvais ça important là, parce que je sais que ça intéresse tout le monde. Et oui, la question, c'était de savoir, dans le cadre d'une action en diffamation, si les demandeurs qui sont identifiés juste par des lettres là, et une fondation, ils voulaient demander la permission au tribunal d'intenter de façon anonyme une action en injonction interlocutoire permanente, oui. Puis en dommage intérêt contre les défendeurs. Les défendeurs étant, voyons, ça c'était, en tout cas, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs...
Mais il y avait Jean-François Marquis qui poursuivait
Ouais, mais
nom.
Là, on parle pas de... Là, c'est le compte. Là, on parle, non, c'est pas, c'est contre Jean-François, il y a AB, Fondation AB, Jean-François Robillard, oui. Enfin, le jugement identifie les parties au début.
Okay.
Alors, le jugement est tombé et il semble, d'après ce que je vois par les conclusions, puis c'est pour ça que on pourra en reparler demain quand j'aurai évidemment passé à travers cette décision-là importante. On rejette la demande visant à préserver l'anonymat des parties demanderait, sauf la demande pour permission d'élire domicile chez des avocats. On refuse que les demandeurs identifiés sous des initiales puissent intenter de façon anonyme une action en injonction interlocutoire et permanente et en dommage.
Ouais,
et bon, alors c'est de ça qui va avoir.
Juste pour m'assurer que je suis bien là, il y avait deux affaires là-dedans. Et bon, les fondatrices du site, Delphine Bergeron, elle est sortie de l'anonymat, mais il y en a une autre qui demandait que son nom soit tenu secret là, parce qu'elle se disait victime d'agression sexuelle et tout ça. Puis il y a des gens qui demandaient de pouvoir poursuivre dit son nom de façon anonyme. C'est ça que je comprends?
Oui, c'est
là?
Exactement
OK,
ça,
parce que c'est compliqué.
Mais c'est très... Oui, parce qu'il y a plusieurs actions.
C'est
tu
ça.
Tu as tout à fait raison.
Je me dis, le monde est peut-être bien mêlé, là.
Mais je pense, en fait, si je peux résumer, là,
ouais.
Il y a personne qui voulait dire son nom.
Bon.
Puis l'action,
ça
c'est
s'appelle dit son nom. C'est ça.
Mais oui. Il y a personne qui voulait le dire, ni les demandeurs, ni les défendeurs. En tout cas, on va tout démêler ça, mais ici, tu as raison de le soulever. On parle de l'action où les demandeurs voulaient intenter une action contre les défendeurs
c'est
qui
ne
voulaient pas se nommer, mais qui ont été obligés de se nommer. Bon, alors tout le monde va être obligé probablement de dire son nom à un moment donné. Ben, ça me surprend vraiment pas. Parce que des poursuites judiciaires devraient être... C'est public, là,
oui.
à moins d'une raison exceptionnelle.
Oui.
Bon, alors, on ira là-dedans le détail
c'est
plus
ça.
Demain, si tu veux bien.
Tu vas te plonger là-dedans ce soir. Grosse soirée.
Oui.
Le suspect dans le meurtre de Nathalie Piché, qui est accusé de meurtre au deuxième degré, puis j'aurai l'occasion d'en reparler tantôt à l'antenne d'LCN, là, quand même, encore une fois, où on a une personne qui faisait de la violence conjugale, Nathalie Piché, qui s'en était déjà plainte. Là, il y a toutes sortes de détails qui commencent à sortir sur cette histoire-là. Là. Madame Piché qui se serait inscrite sur un site pour venir en aide aux personnes qui sont prises dans des mariages frauduleux. Donc, c'est quand même des informations qui sont importantes. Là.
Oui, il y a des informations importantes. Puis ce qui m'a beaucoup allumée ce matin quand j'ai lu du détail là-dessus. Mm. C'est que, bon, d'abord, premièrement, le conjoint, M. Mouni, est accusé de meurtre au deuxième degré. Mais il avait été accusé en décembre, donc décembre 2019. Il faisait l'objet d'accusations sérieuses. Voix de fait sur madame, menace de mais c'est pas des menaces de mort, je pense qu'on parle de menace de brûler son appartement, mais ça fait partie des menaces, là, dans le même article au code criminel, et séquestration. Ce qui est arrivé en février, ce que je comprends, c'est qu'en février, mi-février de cette année, il a été acquitté, pas acquitté parce qu'il n'y avait pas de preuves, pas acquitté, ben oui, d'une façon, mais c'est plus technique que ça, c'est que on aurait changé le tout, si on me permet cette phrase-là, pour un 810. C'est le fameux 810 qui est une espèce de contrat que les parties s'engagent devant le tribunal à garder la paix, de pas faire ci, de pas faire ça, mais et de respecter l'un et l'autre.
On s'en est parlé souvent de ça, toi puis moi, là.
Oui. Mais ici, ce qui est... Et là, c'est là que l'alarme sonne. Juste avant d'arriver au 810, il y a également des informations qui me viennent à l'effet qu'il y aurait eu des demandes à la Cour, et ça, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière, entre décembre 2020 et aujourd'hui, il y aurait eu, avant le 810, demande d'alléger les conditions. Qu'est-ce que ça veut dire, les conditions de remise en liberté? Tu sais, ne pas entrer... D'habitude, là, en matière de violence conjugale, il n'y a aucun contact qui est permis, c'est ce que le tribunal ordonne. Mais, dans les mois, dans les semaines, pour des raisons personnelles, et ça, on en est revenu souvent, qui appartiennent...
On sait comment ça fait.
Ben oui, c'est ça. Alors, on ne sait pas de quelle façon ça... de quelle manigance ou vraiment c'était vraiment volontaire, mais on a demandé d'alléger. Mais pour demander d'alléger des conditions en matière de violence conjugale avec ce qu'on connaissait, c'est parce qu'on s'est assuré que la victime qui est décédée aujourd'hui était nettement consciente et comprenait.
C'est
même
ça.
Chose pour le 810.
Mais Nicole, c'est ça qui est un peu...
Je
n'ai pas de solution, puis je suis curieuse de t'entendre sur ce que tu penses, parce que, tu sais, on s'est parlé souvent du 810, puis dans les propositions qui ont été faites, là, notamment sur le port du bracelet électronique, parce que justement, les agresseurs le brisent souvent, le 810, et sur cette fameuse étude là, sur l'indice de dangerosité, à un moment donné, les dynamiques de violence conjugale, parce que quand on va voir les commentaires sous les articles, souvent, là, ça nous montre un peu les préjugés qu'on a encore, malheureusement, sur ces situations-là. Des gens qui disent, ben oui, mais Caroline, il y a bas, pourquoi qu'elle s'en va pas? Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Je lis le témoignage de son ami là, à Mme Pichette qui dit que cet homme-là en question avait la bonne chanson pour qu'elle le reprenne toujours.
Oui.
À un moment donné, est-ce que légalement on pourrait protéger les victimes de violences conjugales contre elles-mêmes? Je veux dire, même si elle veut le reprendre, je ne sais pas, moi, mesurer l'indice de dangerosité de cet homme-là, comment on pourrait s'y prendre? C'est compliqué là, avec la loi.
C'est très, très compliqué. Puis empêcher quelqu'un, un adulte au Canada, de voir si on n'est pas... On peut pas. On l'a fait avec la loi sur la santé publique, mais il n'y a pas de confinement obligatoire. Là, on ne peut pas faire ça. Ça n'existe pas, ce genre. Par contre, dans les... Tu sais, c'est quand même... On lève des drapeaux que cet homme-là qui... pour l'avoir vu souvent, des mises en garde, personnellement, je l'ai fait avec les yeux de biche, là, que s'il vous plaît, voulez-vous, écoutez-moi, je suis la dernière, pas moi, Nicole Gibault, mais moi, tribunal, là, moi, juge, là, tu sais, faites attention, voulez-vous y penser, voulez-vous suspendre quelques minutes, parce que vous savez que si c'est terminé, vous témoignez pas, je dois quitter. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, voie de fait, menace de brûler quelque chose, son appartement, je crois, et séquestration, il a été complètement acquitté. Mais ça, on ne peut pas aller dans le cœur et dans la tête de quelqu'un qui dit, Madame la juge ou Monsieur le juge, c'est ce que je veux. La couronne non plus. Mmh. On a beau dire, c'est épouvantable de faire signer des 810. Mais là, dans un cas comme ça, c'est peut-être même une petite mini-protection. Parce que si elle voulait pas témoigner, là, Geneviève, là, clairement pas témoigner contre lui, il est acquitté. Clairement acquitté sur le champ. Puis ça, on n'a pas le choix. Mais la couronne a probablement négocié avec la défense. Mais on peut-tu avoir un 810 au moins? Ça change rien.
Je comprends.
Mais quelqu'un qui décide de tuer quelqu'un, 810, petit contrat individuel entre les parties, ordonnance de la cour, sévérité, les yeux,
mais
les
sourcils. Mais sans sac, surtout s'il se suicide après, là, on s'entend-tu?
Il s'en fout,
mais oui.
Parce que c'est exactement... Alors, c'est pour ça que quand on disait, quand Mme Guilbeault disait, on peut mettre un paquet de mesures, on peut ouvrir la porte, on peut ouvrir des numéros de téléphone, on peut demander aux familles de faire le nécessaire. Mais en soi, là, en quelque part, là, et puis peut-être que tu l'as vécu au niveau personnel, moi je l'ai vécu au niveau personnel aussi, des amis à qui j'ai fait attention, puis dans la vie privée de ces gens-là, il n'y a rien à faire. Quand ils sont décidés de retourner pour des raisons émotives...
Mais ça fait partie du processus, Nicole, aussi. Les femmes qui travaillent en maison d'hébergement le disent, que souvent il y a des allers-retours un bon nombre de fois avant de mettre fin
définitivement
à la relation, parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes-là ne sont pas toujours des monstres, hein, 24 heures sur 24,
non,
et que les femmes sont amoureuses de leur mari, que c'est le père de leurs enfants, bien souvent. Donc, c'est plus compliqué que ça, là, de dire, juste à le laisser.
Est-ce qu'en amont, on pourrait... pas commencer. Puis je pense que là, on va être assez ouvert à ceci, là. Tu sais, des séances, des au lieu des, pas des alcooliques anonymes, mais des séances de, on comprend le concept, là, des groupes, des
ou bien faire la publicité. Éduquons les jeunes aussi pour les amours toxiques, parce que là, il y en a un autre féminicide, Nicole, en Ontario, là. Ça se passe pas au Québec, mais en moins de 24 heures, il y a une autre femme qui a été poignardée, une autre qui a été blessée gravement.
Oui, puis c'est directement le côté de la rivière chez moi, puis ça m'a interpellée beaucoup. Évidemment, c'est une... On parle... Au début, on voulait pas faire de lien, mais là, clairement, les médias ici dans la région annoncent que c'est son conjoint, mais qu'il ne vivait pas avec elle. Encore une fois, l'alarme qui sonne quand on est séparé, puis c'est pas parce que ça fait une semaine ou deux, là. Ça peut faire 3 mois, ça peut faire 4 mois.
Ça peut faire 3 ans aussi, tu sais.
Ça peut faire 3 ans, t'as tout à fait raison. Il y a quelque chose qui saute, il y a des fils qui juste, c'est pas une situation X qui va rappeler quelque chose ou une situation qui va provoquer ceci. Alors oui, il paraît, c'est évidemment, il est présumé, là, il comparaît cet après-midi. On sait pas exactement quelle accusation, ça sera meurtre deuxième, meurtre premier, mais il y a certainement une tentative de meurtre également, parce que la fille de cette femme-là, donc qui serait entre guillemets sa fille à lui, parce qu'il n'y a rien de confirmé comme tel, mais c'est ce que les médias clairement affirment dans la région ici, là, par exemple. Alors, mais elle va s'en sortir. Alors, ce serait le 9e meurtre dans la région d'Ottawa, c'est quelque chose, le 9e depuis janvier dans la région.
Non, puis au Québec, on a, puis je m'excuse de dire ça, là, l'expression est super... je voulais dire, on a battu un record par rapport à l'année passée.
Oui,
fait que tu sais, c'est terrible. Puis tu sais, faut dire aussi qu'il faut donner des ressources aux hommes qui ont de la violence. Il faut les encadrer. Puis tu sais, c'est peut-être là que ça se passe, là, quand ils sont dans le système judiciaire. Peut-être que la victime porte plainte, c'est tout ça. Mais quand je te dis que le système devait les prendre en charge à ce moment-là pour leur donner de l'aide, moi je pense que oui, ça fait partie de la solution. Merci Nicole, on se parle demain.
Merci, à bientôt, à demain.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On a l'impression que la campagne de vaccination est arrivée bien tardivement dans nos prisons, même si certains établissements ont été quand même des hauts lieux d'éclosion durant le pire de la pandémie. On est avec Justin Piché, qui est criminologue à l'Université d'Ottawa. Monsieur Piché, bonjour.
Bonjour.
Bon, pourquoi on a attendu aussi longtemps avant d'amorcer la campagne vaccinale dans les prisons?
Il faut demander ça au gouvernement. On savait depuis le début de la pandémie qu'une prison, évidemment, c'est une installation de vie collective.
Mm-hmm.
La distanciation sociale est souvent impossible dans ces milieux-là. Puis il y a de la mauvaise aviation qui est partagée. Donc, c'est un environnement propice pour des éclosions puis la transmission.
Ouais.
Il y a cela que plusieurs juridictions y ont attendu trop tard. Par exemple, ici à Ottawa, au centre de détention d'Ottawa-Carleton. Ils ont attendu jusqu'au 18 mai pour commencer à administrer des vaccins aux prisonniers. Moi, j'ai eu mon vaccin le 26 avril. J'ai même pas 40 ans. Ça n'a pas de sens.
Ben oui, parce que là, évidemment, on parle de tout ça parce qu'il y a un article qui est sorti, c'est Radio-Canada et CBC qui ont travaillé là-dessus, puis des témoignages quand même qui sont assez troublants, notamment la sœur d'un détenu, un détenu qui avait 72 ans puisqu'il est décédé, il semblerait qu'il serait décédé de la COVID-19, puis elle, ce qu'elle dit, cette femme-là, c'est qu'on a laissé un peu mourir son frère, finalement, là. C'est quand même... Je comprends que les détenus n'ont pas majoritairement la sympathie du public, mais de se dire qu'on a vacciné des gens plus jeunes dans la population puis qu'on a laissé des détenus de presque 80 ans sans vaccin dans un milieu fermé, ça fait pas beaucoup de sens.
C'est dans le cas de M. Langevin qui est décédé à l'intérieur de la prison à Montréal, à Bordeaux.
Oui.
Durant la première vague, les vaccins n'auraient pas l'aidé, mais qu'est-ce que sa famille dit depuis cette troisième vague, c'est mm-hmm. Hey, où sont les vaccins pour sauver d'autres rebelles de Langevin? Puis il faut se poser la question, parce que si on réussit pas à vacciner le monde à l'intérieur, si on réussit pas à utiliser des alternatives à l'enfermement pour réduire le risque de COVID-19 à l'intérieur des murs, puis réduire le nombre mm-hmm. Monde de gens qui pourraient être affectés par ça, ça pourrait continuer derrière les murs, puis également en dehors des murs, puis nous risquons une quatrième vague. C'est aussi simple que ça.
Oui, puis vous avez raison de le souligner, là, que cet homme-là en question est décédé pendant la première vague. Puis c'est intéressant de le souligner parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même des détenus, puis je parlais à une avocate en droit carcéral à l'époque de tout ça, qui demandait d'être relâché parce que le risque d'attraper la COVID-19 à l'intérieur des murs était trop grand.
Oui, c'est ça. Puis durant la première vague, il faut souligner que plusieurs provinces et territoires ils ont réduit leur population carcérale autour de 25% à travers le pays au niveau provincial puis territorial. Puis durant la deuxième vague, ils ont laissé la population carcérale augmenter. Puis les cas ils ont augmenté également durant cette période-là, beaucoup plus de cas qu'on avait durant la première vague. Mm. Puis la troisième vague, ça continue, spécialement dans les juridictions où ils n'ont pas vacciné le monde. Dans la mesure du possible, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, performent tous moins que les pénitenciers fédérales où eux, ils ont commencé à vacciner en janvier pour les 600 personnes qui pensaient qu'ils seraient plus à risque. Mm-hmm. Puis après ça, ils ont commencé à vacciner plus de monde en mars. Puis il y a plusieurs gens au système fédéral qui ont déjà eu leur deuxième dose.
C'est ça. Qu'est-ce qui explique cette disparité-là, M. Piché? Parce qu'on a 80% des détenus dans les pénitenciers fédéraux qui sont vaccinés. Dans les prisons provinciales, c'est en moyenne la moitié des prisonniers là, qui ont consenti à recevoir une première dose. Au Québec, c'est 57% des détenus qui sont vaccinés. Pourquoi c'est différent entre le fédéral et les provinces?
Donc, je pense que le gouvernement fédéral, ils ont fait le calcul que, OK, on va pas faire sortir les gens de la prison, donc il faut les vacciner. Puis, ils ont passé à l'action, puis ils ont vacciné le monde. Mais au niveau provincial, je peux parler ici en Ontario, où moi je suis, mm-hmm. Le gouvernement, ils ont décidé de passer la responsabilité de vacciner les prisonniers pas à leur service correctionnel, mais aux autorités de santé publique locales. Donc, c'était eux qui ont décidé quand on voulait vacciner le monde. Puis, qu'est-ce que ça a fait? C'est une réponse qui était pas mal inégale. Donc, à Toronto, ils ont commencé à vacciner à Milton, par exemple, à Maplehurst, à fin mars. Puis, en Ottawa, ils ont décidé mi-mai. Puis, vraiment, j'ai pas d'explication pour ça parce que les principes, le guide pour ces vaccinations-là que la province, eux, ils ont recommandé, c'était de vacciner le monde commençant en début avril. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur job. Puis maintenant, on vit les conséquences. Puis au centre de détention d'Ottawa-Carlton, il y a une éclosion qui continue depuis le 21 mai. C'est la plus grande éclosion qu'ils ont eue à ce centre-là depuis le début de la pandémie. Puis c'est ça, ils ont vacciné le monde il y a seulement quelques semaines. Puis il y a beaucoup de gens qui ont refusé à cause qu'il n'y avait pas les informations concernant ces vaccins-là. On avait des prisonniers qui m'appelaient sur la ligne téléphonique Jail Hotline que nous avons ici, qui disait qu'il n'y avait même pas l'information concernant quel vaccin était offert. Donc, ils ne savaient pas, dans le milieu de toute la controverse autour de AstraZeneca,
ouais.
si c'était l'AstraZeneca ou le Moderna ou le Pfizer qui était offert à eux. Imagine ça.
Oui, ben c'est ça. Puis quand on parle de tout ça, il y a bien des gens qui se disent, ben écoutez, là, c'est des prisonniers, ils ont fait des crimes parfois très, très graves. Puis par rapport à la vaccination, bien du monde se disait, ben là, on ne donnera pas des vaccins aux prisonniers alors qu'on en manque dans la population ordinaire, entre guillemets. Mais à quel point ça aurait volé des doses dans la population en général?
Je pense qu'on vit maintenant dans une pandémie où il faut aller donner des vaccins où il y a le plus de risque de transmission parce
ben
que
oui.
il y a plus d'éclosions. Évidemment, ça va avoir un impact sur tout le monde. Il y a des prisonniers qui sortent de la prison à chaque jour lorsqu'ils purgent leur sentence ou s'ils reçoivent leur liberté sous caution avant leur procès.
Oui, mais il y a des gens aussi qui travaillent, les agents correctionnels aussi, là.
Qui retournent chez eux, chez leur famille, qui ils magasinent dans les dépanneurs comme tout le monde, donc c'est pas comme ça reste là, derrière les murs. Donc il faut passer à l'action, il faut pas jouer ces jeux politiques-là, c'est des vies, puis vraiment, c'est pas juste les prisonniers, c'est dans notre intérêt personnel que ces gens-là, sont plus à risque de la transmission de COVID, puis ils le sont, qui reçoivent les vaccins puis ils sont capables de recevoir l'information pour faire des bons choix.
Ben oui, mais je veux bien croire. Oui, puis je veux bien croire, M. Pichet, que ce sont des prisonniers puis que parfois ils ont fait des crimes épouvantables, mais ça reste des humains qui sont dans un système qu'on a créé. On doit les nourrir, on doit les loger en attendant leur sentence. Donc, il faut leur donner des vaccins aussi. C'est comme si la pandémie avait un peu montré la limite de notre empathie qui est déjà pas très grande là, à l'égard de cette population-là.
On n'a pas une peine de mort ici au Canada. Puis il faut se souvenir aussi qu'au niveau provincial, la majorité des prisonniers qui sont là sont en détention provisoire. Ils attendent leur procès. Les autres gens, ils purgent des sentences de moins de 2 ans. Encore, je parle au provincial ici. Puis les accusations puis les condamnations pour ces gens-là, au niveau provincial, c'est majoritairement pour des crimes sans violence. Donc, tu sais, c'est souvent des gens qui vivent la pauvreté puis ils sont pas capables de payer la somme d'argent pour que le juge les laisse sortir avant leur procès. C'est des gens qui ont des fois des troubles de consommation de drogue ou des troubles de santé mentale puis ils se font criminaliser parce qu'ils sont plus visibles dans la communauté parce, par exemple, ils ont pas de logement. Tu sais, si moi je prends la drogue chez moi à la maison, la police s'en fout, mais si quelqu'un fait ça sur la rue au centre-ville, au Québec ou à Ottawa, ils vont se faire prendre puis ils vont se retrouver en prison. Moi, non. Donc, il faut se souvenir que ces gens-là, au niveau provincial en particulièrement, c'est des gens qui ont été marginalisés. Puis oui, il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses dans la vie. Il y en a qui sont en prison puis il y en a qui sont pas.
Ben exactement, vous avez complètement raison, Justin Pichet. Merci beaucoup, criminologue à l'Université d'Ottawa. On se parlait de la vaccination à l'intérieur des pénitenciers fédéraux, les prisons provinciales aussi. Il y a une disparité entre les deux. On a attendu très, très longtemps aussi avant de débuter campagne vaccinale auprès des détenus.
Radio.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Une étude qui va être menée que je trouve très, très intéressante. Je vous ai souvent parlé des agressions sexuelles dans le milieu universitaire, des relations parfois problématiques entre les profs et leurs élèves. Et là, la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur invite les gens à leur partager leur témoignage pour cette nouvelle étude sur les violences sexuelles à l'université. On est avec Ludivine Tomasso, qui est coordonnatrice. Bonjour, Madame Tomasso.
Bonjour.
Bon, quels sont les objectifs de cette étude-là que vous vous apprêtez à mener, là?
Dans le fond, il y a eu une nouvelle loi qui est passée au Québec en 2017 avec des changements dans les universités.
Oui.
Nous, notre étude, c'est vraiment comprendre comment ça se passe quand les personnes parlent d'une situation à leur université.
Oui.
Puis on veut savoir est-ce que les personnes sont bien prises en charge? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc, on veut vraiment élaborer des pistes de recommandations, dans le fond, pour la reprise en charge et pour la prévention des violences sexuelles à l'université.
Oui, parce que ce processus-là a souvent été critiqué. Les étudiantes l'ont souvent remis en question, là, le fait de devoir se présenter à tel endroit pour porter une plainte contre un professeur, de devoir raconter tout ça. Ça avait l'air de rouler carré un peu, là, pardonnez-moi l'expression. Là, vous voulez faire des recommandations, mais vous cherchez des témoignages. Pourquoi vous avez besoin de témoignages?
C'est vraiment important pour nous de comprendre comment les gens se sentent dans ce processus. C'est pour ça qu'on veut récupérer des témoignages. On veut comprendre comment ça se passe concrètement pour les personnes. Tu sais, comment elles se sentent? Est-ce qu'elles se sentent accueillies, validées, bien accompagnées ou justement elles se sentent pas comme ça? Donc, c'est vraiment important pour nous de recueillir la parole des personnes directement parce que on travaille autour pour notre campagne. C'est ton histoire peut tout changer parce que tu sais, chaque histoire est importante.
OK, mais est-ce que vous êtes à même de me dire, par exemple, si moi je suis étudiante dans une université et que je suis dans une situation où il y a eu des comportements sexistes ou sexuels problématiques à mon endroit, c'est quoi le chemin que je dois parcourir en ce moment là, si je veux faire une dénonciation à mon établissement d'enseignement? Comment ça se passe?
En fait, il y a des bureaux, ça porte un nom différent dans chacune des universités. Là, avec la loi qui est passée en 2017, maintenant les universités québécoises ont l'obligation d'avoir des bureaux qui s'occupent de ces plaintes-là. Donc, il faut contacter le bureau de lutte contre le harcèlement. Là, vous allez être accueilli par un ou une intervenante qui va vous accompagner dans votre processus. Vous allez avoir le choix soit de porter une plainte formelle, soit de suivre un chemin informel. Donc, il y a tout un ensemble d'accommodements qui peuvent être mis en place pour la personne. Puis le choix revient à la personne de faire ce cheminement-là.
OK. Qu'est-ce que ça prend? Qui peut participer à votre étude?
En fait, on cherche des personnes qui ont vécu du harcèlement sexuel, de la violence sexuelle à l'université, puis qui ont parlé de la situation depuis 2019. 2019 parce que c'est là où les changements ont été faits au niveau institutionnel. C'est pas obligé d'avoir porté une plainte formelle à l'université parce que parfois, on va aller parler à un professeur ou une professeure, à son syndicat, à une association étudiante, puis la démarche se termine ici. Fait que nous, on veut vraiment parler à tous les trajectoires qui peuvent arriver à l'université.
Mais il faut en avoir parlé à quelqu'un.
Oui, exactement.
OK. Puis on parle de quel type de comportement exactement? Parce que, bon, quand on parle de violences sexistes et sexuelles, c'est assez large, là.
Oui, c'est ça. C'est sûr que tu sais, on a l'impression parfois que c'est très clair.
Oui, c'est vrai.
Nous, on a une définition assez large de ce qui constitue une violence, du harcèlement et des violences sexuelles.
Oui.
C'est que c'est tout propos, comportement, attitude à caractère sexuel, mais non désiré par la personne qui le reçoit. Fait que ça peut être des blagues, ça peut être des propositions à répétition, ça peut être des attouchements, ça peut être des tentatives d'agression sexuelle aussi. Ça peut être de la coercition sexuelle. La coercition sexuelle, c'est quand on va faire des menaces ou de la manipulation en échange de faveurs sexuelles.
Ben oui, puis quand je vous entends dire tout ça, ça me donne des frissons. Puis j'ai l'impression, parce qu'on en a quand même abondamment parlé de cette problématique-là, mais j'ai l'impression que plusieurs personnes pensent que ce type de comportement-là dans les universités, c'est rare, mais surtout que ça appartient au passé. T'sais, je pense que collectivement, on a un peu ce préjugé-là de se dire « Ah, mais ça, c'était dans le temps, là, quand rien était clair, puis que t'sais, avant le MeToo, là, à cette heure, ça se passe bien. »
Mais c'est ça, c'est vraiment un préjugé qui reste.
Oui.
Puis à la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles, il y a eu plusieurs recherches qui ont paru là les dernières années. Il y a eu la recherche ESIMU qui parlait vraiment du milieu universitaire. Il y a une recherche, la recherche PIECE qui a été publiée aussi à l'automne 2020. Là, on s'intéressait au milieu collégial. Puis ce qui ressort, c'est qu'une personne sur trois a vécu une forme de violence sexuelle à l'université.
C'est énorme.
C'est vraiment un gros chiffre, oui.
Ben et oui, puis ça peut avoir un impact assez sérieux sur le cheminement académique d'un élève ou d'une élève qui décide, par exemple, de se présenter à un cours, d'abandonner son programme ou qui fait des crises d'anxiété à répétition là, à cause de comportements comme ceux-là.
Oui, vraiment, puis c'est vraiment une grande problématique, puis c'est pour ça qu'on veut travailler sur ces enjeux-là. On veut vraiment comprendre c'est quoi les besoins des personnes, pas forcément celles qui vont faire appel au bureau, parce que celles-là ont déjà fait une partie du chemin, mais celles aussi qui s'y rendront jamais, en fait. On veut comprendre pourquoi. Comment on peut améliorer les choses pour que tout le monde se sente accueilli et soutenu dans cette situation-là?
Ouais.
Puis bien sûr, on veut prévenir.
Ben oui, puis on va en reparler tantôt de prévention, mais est-ce qu'il y a un délai de prescription? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été victimes de gestes dans le passé pourraient, par exemple, participer à votre étude?
Oui, en fait, on n'a pas de limite de temps.
Okay.
Ce qu'il faut, c'est avoir parlé de la situation à quelqu'un de l'université en 2019. Donc, les faits peuvent remonter à plusieurs années. Mais si vous avez parlé à quelqu'un de l'université en 2019, ça rentre dans notre étude.
OK. Puis est-ce qu'il faut absolument que ça se soit passé, ce harcèlement-là ou ces gestes-là, à l'intérieur des murs de l'université?
Non, ça peut se passer à l'intérieur ou à l'extérieur des murs, la violence sexuelle à l'université. Nous, pour des raisons liées aux politiques institutionnelles, il faut que la violence ait été commise par une personne qui appartenait à la même université, parce que sinon les universités peuvent ne pas intervenir à ce moment-là.
Non, puis il y a des histoires complètement folles. Moi, je me rappelle, j'avais un prof, je nommerai pas son nom, qui appelait les étudiantes le soir après avoir bu un peu trop de vin pour leur faire du dirty talk ou des propositions, c'était même pas voilé, là. C'était complètement explicite et tout le monde le savait, là. Ça se parlait, puis ça se passait au vu et au su des départements. J'ose croire que les choses ont changé aujourd'hui. Est-ce que ces données-là que vous allez ramasser là, pourraient, par exemple, aider les universités à agir, à se doter de politiques claires? Puis, tu sais, je voulais qu'on parle aussi un peu de prévention, là. Comment on fait pour prévenir ça?
Mais c'est ça, c'est vraiment important. Nous, à la chaire, on travaille sur ces différents volets-là, à la fois, tu sais, documenter le phénomène, l'ampleur aussi des phénomènes, comme vous m'avez posé la question. Parfois, on a tendance à sous-estimer ce qui se passe à l'université et à banaliser aussi la violence, certaines formes de violence comme les propos, les blagues à répétition. Parfois, on va se dire « Ok, mais c'est pas si grave que ça », alors que ça fait partie des formes de violence sexuelle. Puis, on travaille aussi à la prévention. C'est pour ça que notre recherche est vraiment importante, parce qu'on veut pouvoir outiller les universités, puis pouvoir changer les choses si les choses se passent pas de la bonne manière. C'est qu'on veut accompagner aussi, faire des pistes de recommandations autour de ces enjeux-là, parce que c'est vraiment important.
Mais oui, dites-moi, Madame Tomasso, si on veut participer, on se rend où?
Vous pouvez vous rendre sur le site de la chaire. Donc, c'est la chaire sur la violence sexiste et sexuelle en milieu d'enseignement supérieur. On a un nom assez long.
Oui.
sur notre page Facebook ou Instagram également, vous allez retrouver toutes les informations pour pouvoir participer à notre recherche.
Bon, la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, je le répète, parce que c'est vrai que c'est assez long pour ceux qui n'ont pas suivi Ludivine Tomasso. Merci, qui est coordonnatrice d'une nouvelle étude sur le harcèlement et la violence sexuelle dans les universités.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio. Le commentaire de
Luc Laliberté. Une vision américaine, pas comme les autres.
Bon, Luc, une chance que tu es là pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe entre Joe Biden et Vladimir Poutine, parce que ça fait des jours qu'on en parle, rencontre sous haute tension, tout le tralala. Puis là, je regarde les photos, ils ont l'air de vivre une bromance, les deux ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe, là? Ils se sont redécouverts, ils sont devenus canadiens, c'est quoi?
Écoute, on échangeait avant l'émission, on a vu les journalistes, certains journalistes, on parle des journalistes russes et américains, qui étaient prêts d'en venir au coup, donc ça a chuté, ça a bougé, on sentait beaucoup de tension. Finalement, au sortir de cette réunion-là, de part et d'autre, on ne fait pas d'annonce particulièrement spectaculaire, mais je pense qu'on a accompli ce qu'on voulait faire. La barre était très basse. Hein,
oui, ça c'est vrai.
Au niveau des attentes. Donc, de voir les deux hommes se quitter, on dit que le discours a été ferme de part et d'autre. Il n'y a pas eu de grandes concessions. Mais ce qu'on avait en tête du côté américain, en tout cas, c'était au moins, d'abord, que Joe Biden mette le pied à terre pour dire, vous n'aurez pas droit, M. Poutine, à une passe gratuite, comme ça a été le cas sous Donald Trump. Il n'est pas question que je valorise votre position avant celle de mes services de renseignement ou qu'on ferme les yeux sur les tentatives d'ingérence. Donc, il y avait ce jeu-là, cette espèce de pièce de théâtre, le jeu un peu théâtral auquel on s'est livré, où on sort les muscles, le ton est ferme. En même temps, les attentes, moi, ce que...
Mais attends, Luc, on aurait dit, sérieusement, oui. Là, on aurait dit un pré-gala de boxe, là. Tu sais, quand les deux boxeurs s'envoient pète dans les médias. Mais là, je voyais deux hommes, tu sais, qui avaient, pour vrai, je vais utiliser un vocabulaire de croissance personnelle, là. Ce qui est sorti de leur rencontre, c'est des beaux mots comme personne constructive, on est conscient, on essaie de comprendre l'autre. Coudonc, c'est-tu un couple qui essaie de divorcer ou c'est deux leaders de pays qui sont en guerre?
J'aime beaucoup, beaucoup ta comparaison parce que c'est un peu ça. Puis dans le langage diplomatique, ben c'est le maximum de rapprochement qu'on pouvait espérer d'une première rencontre.
Ouais.
C'est ça. Donc, quand je disais qu'il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire, c'est que Vladimir Poutine n'a pas dit, écoutez, on fait de l'espionnage, nous, ou encore, on a fait une tentative d'ingérence. On n'a pas fait de grandes déclarations sur le nucléaire ou sur l'Ukraine ou même sur Navalny, qui est un détenu considéré comme un prisonnier politique du côté américain. Alors, quand M. Poutine dit non, il a tout simplement désobéi à la loi chez nous, puis il fait partie des autres prisonniers. Il n'est pas différent des autres à mes yeux. Par contre, dans les gestes significatifs...
Mais attends, excuse-moi, je veux pas t'interrompre, mais sur Navalny, on a quand même dit qu'il y aurait peut-être certains compromis, peut-être que ça vise pas celui-là en particulier, là, mais sur un éventuel échange de prisonniers, en tout cas, moi, je comprends qu'il y avait une relative ouverture, là.
Voilà, donc c'est là aussi on garde les canaux de communication ouverts. Et ce que j'allais dire, qui est en lien avec ça, c'est qu'au moins on retourne nos diplomates, nos ambassadeurs dans le pays, dans l'autre pays. Donc en signe d'opposition pour bien marquer la rupture de dialogue, chacun avait rapatrié son premier diplomate, son ambassadeur. Donc on remet ça sur le tapis. Alors, est-ce que Joe Biden peut dire, lui, du côté américain, mission accomplie sur toute la ligne? Je pense que l'idée, c'était de montrer qu'il était ferme, de reprendre un certain dialogue, et Biden a intérêt à le faire. Ce que M. Biden veut, c'est stabiliser le jeu de la Russie le plus possible. Ce que M. Poutine espère en échange, bien entendu, c'est justement que le président américain va continuer à lui parler, parce que c'est en ayant, même indirectement, l'appui des Américains que Vladimir Poutine se fait inviter à la table
négociations. C'est un bébé gâté, il faut juste lui donner de l'attention, puis il est content. C'est assez simple.
Et pour la Russie, on peut comprendre un certain attachement ou une certaine admiration à l'endroit de M. Poutine.
Ouais.
C'est un stratège qui est très déterminé, on le sait qu'il ne recule devant rien. Donc, dans son pays, on appuie des politiques de Vladimir Poutine parce qu'il replace depuis des années la Russie sur la carte comme joueur important, comme puissance significative.
Mm-hmm.
Il a été particulièrement habile. Donc, c'est ce qu'il espérait, lui, d'une rencontre avec Joe Biden. C'est la raison pour laquelle il joue les durs et qu'il est dur très, très souvent. M. Biden devait répondre à ça. Donc, ça a été le goût gala de boxe, hein, ou pesé avant le match. Mais il y a eu effectivement cet épisode de croissance personnelle. Je retiens l'image, j'ai bien aimé.
Non, mais c'est tellement ça, là, je veux dire, c'est terrible. Mais OK, fait que dans le fond, puis ils n'ont pas parlé de la fois où M. Biden a traité l'autre d'assassin. Là. On a fait comme dans une bonne vieille famille traditionnelle, on a balayé ça sous le tapis puis on a fait à croire que tout va bien. C'est un peu ça, finalement.
Ça fait presque triste à dire, ou à tout le moins, en tout cas, c'est très cynique, mais je pense que ça fait partie du jeu. M. Poutine, il est sur la scène internationale, il se comporte régulièrement comme ce qu'on appelle un bully, hein, le costaud de la cour d'école. Tant et aussi longtemps qu'on va le laisser avancer, il va pousser. Il va prendre tout le terrain qu'on lui laisse. Donc, il s'attendait à ça. Et tu remarqueras les pics à venir. M. Poutine ne rate jamais une occasion d'embêter les présidents américains. Il l'avait fait avec Barack Obama.
Ouais.
Grosso modo, il ne l'avait pas traité de petit gars, mais c'était presque ça. Il lui avait fait un pied de nez en première page du New York Times, d'ailleurs, une espèce de leçon sur la politique étrangère et sur la stratégie. Donc, on aime ou pas, mais c'est de bonne guerre entre les deux.
Mais parlant de pic, là, quand il a qualifié Biden de personne constructive, pondérée et très expérimentée, est-ce que c'était une pic envers Donald Trump?
C'était surtout une pique, je pense, à l'endroit de Barack Obama.
Ah oui, hein?
Donc, M. Trump, il a été assez flatteur.
Oui, c'est ça.
Oui. Donc, M. Trump, je pense qu'il a été assez flatteur à son endroit en disant, ben oui, c'est peut-être un personnage un brin excentrique, mais c'est quelqu'un qui est assurément très intelligent et très habile pour être parvenu au sommet alors qu'il est à l'extérieur. Il était à l'extérieur de la scène politique. Là. Il n'avait pas été politicien avant la présidence. Bien sûr, M. Poutine, il se devait de faire ça parce qu'il a eu droit à 4 années sans être embêté ou sans avoir eu de répartie forte ou ferme. M. Trump l'a laissé patiner ou jouer comme il le voulait ou comme il le souhaitait. Donc, quand la Russie interfère dans la campagne 2016, Vladimir Poutine, on ne peut pas dire que c'est lui qui fait élire Donald Trump. Mais je pense que considérant l'investissement qu'on avait fait dans l'ingérence, il y a eu un retour sur l'investissement au-delà des attentes de Vladimir Poutine qui bien souvent devait sourire devant l'absence de commentaires ou encore devant les commentaires élogieux de Donald Trump.
Bon, tout est bien qui finit bien pour le moment. On va continuer.
C'est premier, écoute, c'est une première rencontre, reprise de contact. On verra. C'est la first date, hein, le premier regard.
Oui, mais je rappelle quand même que ce sont les deux puissances nucléaires mondiales, la Russie et les États-Unis, donc on a tout intérêt à ce qu'ils s'entendent.
Bien sûr.
Un important vote, faudra surveiller ce vote bipartisan là, sur l'esclavage dans les prochains jours.
Écoute, ça, c'était, il y a une première étape qui a été franchie. C'est-à-dire qu'au Sénat, on avait tenté de passer la mesure ou la loi en 2020, puis il y a un républicain qui s'était objecté, donc on refait le coup cette année. Sur quoi s'est-on entendu de façon unanime? Donc, il faut préciser, à une époque où on parle de polarisation politique, républicains et démocrates ont accepté de faire du 19 juin, ce qu'on appelle le Juneteenth en anglais, on a accepté au Sénat de faire du 19 juin un congé férié aux États-Unis pour souligner ou pour marquer la fin de l'esclavage. La date, pour nos auditeurs, la date du 19 juin, c'est le moment où les esclaves de Galveston au Texas apprennent qu'ils sont libres. Eux n'avaient pas été informés qu'en 1863, il y avait déjà eu une première proclamation d'émancipation. D'ailleurs, comme le Texas est très loin du nord des États-Unis puis de la capitale, ils ne savaient pas en fait qu'ils étaient libres depuis 2 ans, parce que Abraham Lincoln a émancipé les esclaves 2 fois, certains esclaves. Les esclaves des pays, des États esclavagistes, l'esclavage avait été aboli en 63, et pour tous les Noirs américains, donc c'était fait en 1865. Donc, on célèbre, au Texas, c'était déjà fait, c'était une journée très importante. Ben, maintenant, au Sénat, on a dit, on va en faire un congé férié sur l'ensemble du territoire américain. Ce qui reste à voter pour que le 19 juin, ça devienne sa force de loi, que ça devienne vraiment un congé férié, donc c'est que la Chambre des représentants vote sur la mesure. On peut déjà prédire que ça va passer. Ce qui reste à voir maintenant, parce que les démocrates sont majoritaires et qu'ils souhaitent passer cette mesure-là, il y a beaucoup de républicains qui le souhaitent également. Donc, il va rester à voir le décompte des voix. Est-ce qu'on aura droit à un vote unanime, comme c'était le cas au Sénat? C'est peut-être le seul suspense qui reste.
Mais c'est ça. Oui. C'est important, là, ce vote-là. C'est très symbolique, mais concrètement, est-ce que si ça passe, est-ce que ça va véritablement changer quelque chose? Ça donne quoi?
Ben voilà, tu le dis. C'est-à-dire que, dans les faits, si je suis un Noir américain victime de discrimination,
on est
encore au cœur de la question raciale, ça met pas où que je suis dans les plus pauvres, les moins éduqués. Ça me donne pas un certificat de plus ou un diplôme de plus. Ça met pas de pain sur la table. J'ai pas moins de discrimination face à la police dans certaines villes américaines. Mais que symboliquement, et là, encore là, on peut être cynique parce que la guerre de sécession, là, c'est 1865, on est loin, là. Mais que symboliquement, le pays reconnaisse avec un congé férié, une date précise, la fin de l'esclavage, c'est d'inscrire vraiment quelque part dans la mémoire, hein, c'est de reconnaître ce qu'on appelle souvent le péché originel aux États-Unis, qui a été le développement de l'esclavage dès la période coloniale.
Mais ça commence
donc,
là.
Oui, voilà. Écoute, d'ailleurs, les premiers Noirs, ça aussi, il y a tout un cours d'histoire à faire autour de ça, mais les premiers Noirs qui débarquent aux États-Unis sont libres. C'est quand on va comprendre l'intérêt, puis quand il va y avoir la nécessité, qu'on va ensuite réduire en esclavage. Mais les premiers Noirs qui débarquent aux États-Unis sont libres dans les colonies américaines. Donc, et on le fait sciemment ensuite. Puis, il y a quelque chose de particulier avec l'esclavage aux États-Unis, puisque l'esclavage avait été pratiqué ailleurs, puis à d'autres périodes. C'est carrément ce qu'on inscrit dans la pratique de l'esclavage aux États-Unis, c'est une hiérarchie des races. Donc, on ne va pas condamner, par exemple, un ennemi, quelqu'un qui, dans la défaite, devient notre esclave. Ce qu'on voyait avant puis dans l'Antiquité, maintenant, ce qu'on dit, c'est que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Ce sont des enfants, des adolescents turbulents et qu'il faut quelqu'un de mature pour s'en occuper. Donc, c'est ce qu'on inscrit quand on développe l'esclavage aux États-Unis. Et ce que je viens de dire là est très dur, mais c'est exactement ce qui distingue l'esclavage dans le sud des États-Unis de beaucoup d'autres pratiques esclavagistes dans l'histoire ou ailleurs dans le monde.
Ah oui, puis tu sais, quand tu dis ça brutalement comme ça, il faut se rappeler, ça fait très très longtemps, mais ces relents colonialistes-là sont encore très très présents dans l'esprit de certaines personnes, là. Puis par ces votes-là, ces gestes symboliques-là, c'est de marquer clairement que l'État marque clairement, que le pays marque clairement que c'est inacceptable et surtout que c'est terminé, là. C'est ça qu'on veut dire, tu sais.
Oui, et tu vois, et la lutte là où la lutte en est rendue en 2021, et on se soyons clairs, c'est triste qu'on ait encore à lutter, mais des véritables racistes, des suprémacistes blancs comme ceux que j'ai évoqués à l'époque, à une autre époque, celle de la période de l'esclavage, c'est marginal aux États-Unis. Mais il faut vivre avec le leg, avec les héritages.
Ben, t'as ça d'un bord, Luc, puis j'ai envie de te dire, parce qu'on en parlait l'autre fois, je parlais de gestes symboliques, puis qu'est-ce que ça va donner concrètement. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Là, les républicains, par exemple, ceux qui vont voter, là, dans certains États, ils ont travaillé pour réduire le vote des minorités. Je veux dire,
Voilà, ben tu vois, c'est-à-dire que c'est pour bien montrer à quel point, des années plus tard, c'est devenu pour tout le monde comme inconcevable qu'on ne fasse pas ça. Mais voilà, on le mentionnait tout à l'heure, il reste de nombreux pas à franchir et qu'on doive encore lutter. Que le président Biden ait confié à Kamala Harris, mais aussi à des législateurs, le mandat de regarder finalement la protection des droits civiques aux États-Unis parce qu'on cible des minorités, écoute, c'est grave. Notre bilan n'est pas parfait au Canada pour au Québec, on l'a vu, il y a toutes sortes de débats sur des tons bien différents, mais on ne tolérerait jamais que dans nos conditions d'accès au scrutin, il y ait carrément une distinction entre une majorité blanche et des minorités. On va jouer ça ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relents qui prennent d'autres formes. Mais ça, c'est comme grossier encore comme attaque aux droits civiques. Donc, le geste est symbolique. J'espère qu'on peut tabler et qu'on misera là-dessus aussi pour limiter, atténuer, puis pourquoi pas retirer définitivement ces relents de racisme ou de discrimination.
Très bien. Merci beaucoup, Luc.
Un grand plaisir. Bonne journée, Geneviève.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Elsie Lefebvre est avec nous. Vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Vous pouvez aussi la regarder à LCN. Elle est partout. Salut, Elsie.
Salut, Geneviève. Ça va bien?
Ben écoute, ça va très bien. Ça va peut-être moins bien pour Claire Samson. On parle souvent d'Éric Duhaime. On dit que c'est un fin stratège. Il est capable de manœuvrer. Peut-être pas dire la même affaire de Mme Samson, là, qui semble avoir, si on veut, dévoilé son jeu avant le temps.
Oui, c'est ça. C'est un peu triste, moi, je regarde ça.
Mais raconte-nous un peu ce qui s'est passé.
Okay, l'histoire, ben c'est ça. Madame Samson, elle était dans l'opposition de la CAQ. Donc, elle a tenu le fort avant que François Legault et toute son équipe arrivent comme gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc, elle faisait partie de l'équipe serrée, je dirais ça. Elle avait la confiance de François Legault. Elle s'occupait des dossiers de culture, de langue française. Puis, bon, elle a un parcours dans sa vie antérieure qui la prédestinait à devenir ministre de la Culture. Et là, à l'annonce du Conseil des ministres, elle a été exclue. On se rappellera qu'elle avait bougonné, elle était partie du Salon Rouge, puis ça avait fait du bruit pour manifester un peu sa déception et son désaccord. Donc, ensuite de ça, semble-t-il, elle s'est réconciliée. Donc, ça fait quoi, 2 ans et demi de ça? Et là, on n'entendait plus trop parler. Elle était malade aussi. Elle fréquente l'Assemblée nationale avec son chien, donc parce que, elle peut faire des crises d'épilepsie.
Un chien d'assistance.
Exactement. Donc, bref, c'est ça, c'est vraiment anecdotique. Mais tout ça pour dire que, elle est une membre du caucus comme les autres. Elle n'a pas la langue dans sa poche, semble-t-il. Mais là, on comprend entre les lignes qu'elle en avait assez. Elle est épuisée, fatiguée. On arrive près des élections. Puis là, elle décide, on sait, Éric Duhaime, tu sais, qui veut se faire élire, qui a annoncé ses couleurs pour le Parti conservateur du Québec.
Mais il veut un député.
Et là, on apprend...
C'est ça qu'il veut.
Pardon?
Il veut un député à l'Assemblée nationale. C'est parce que...
Exact. Donc là, on arrive dans le cœur de l'histoire. C'est ça. C'est que là, hier, on apprend que la CAQ apprend que Claire Samson aurait fait un chèque, un don politique de 100 $
c'est bizarre.
À un autre parti.
Oui.
Et donc, on convoque Mme Samson. Elle nie pas. Elle dit oui, c'est vrai, j'ai donné. Et donc, là, elle était exclue du caucus. Elle n'est plus membre de la CAQ. Elle dit, on l'écoutait ce matin en entrevue avec Mario Dumont. Donc, elle dit qu'elle l'a appris ce matin dans le journal, qu'elle était exclue, puis que c'est normal en démocratie de pouvoir donner à des partis, mais c'est un peu spécial de ne pas donner à son propre parti. Donc, quand on est membre d'un parti politique, normalement, on n'appuie pas un autre parti politique. Donc, ça appuie un peu la thèse à savoir que, Éric Duhaime essaie tant bien que mal de recruter parmi les élus.
Parce il fait du maraudage.
Du maraudage, exactement, c'est le bon mot. Donc, ça lui permettrait d'avoir un élu à l'Assemblée nationale. Mais plus que ça, c'est que, un élu à l'Assemblée nationale, ça lui permettrait, lui, un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon, d'accéder au fameux point de presse, à la tribune de la presse, donc de pouvoir exposer sa vision du Québec et des politiques publiques de façon beaucoup plus soutenue et avec la visibilité. Puis ça pourrait même aller plus loin parce que si on se rappelle dans le temps, puis là, il va falloir démêler ça, mais Françoise David, à l'époque, avait réussi à participer au même au débat des chefs
exact.
À l'occasion des élections, alors qu'il y avait Amir Kadir qui était élu dans Mercier. Donc, ça pourrait avoir des conséquences, non pas pour déstabiliser François Legault, mais quand même, moi, je m'inquiète un peu dans le sens où, bon, pas que je m'inquiète, mais tu sais, j'ai des allégeances plutôt progressistes. C'est sûr qu'un parti comme celui d'Éric Duhaime va ramener l'échiquier beaucoup plus à droite. T'sais. Donc, il n'y a pas une grande popularité à l'heure actuelle, mais dans la région du Québec, ça a son impact. Donc, à Québec, il pourrait amener certains élus à trouver des positions beaucoup trop centristes pour la CAQ. Et donc, tranquillement, pas vite, aller chercher du terrain pour que François Legault prenne des positions qui s'éloigne un peu du centre et puis qui se rapproche plus de la droite, plus de l'ancienne ADQ. Donc, l'ancienne ADQ, c'est comme un peu effacé, tu sais, dans la CAQ. Donc, c'est ça, tout ce que ça pourrait apporter.
Oui. Bien, je pense que, excuse-moi, mais je pense qu'Éric Duhaime, comme le disent plusieurs analystes, c'est que ça sera un sérieux caillou dans le soulier de M. Legault. Là. Puis Claire Samson, je ne sais pas si tu as entendu son entrevue avec Mario Dumont, mais je serais curieuse de savoir parce que, quand même, c'est particulier de faire un don à un parti en pleine pandémie avec un chef qui est clairement contre certaines mesures sanitaires, là, qui dit que le gouvernement abuse.
Exactement, ça c'est l'autre point.
Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Samson, à ça?
Bon, là-dessus, elle s'est défendue catégoriquement de dire qu'elle avait respecté toutes les
presque
mesures.
Presque toutes.
Puis que, donc, c'était non avenu, mais donc, tu sais, elle a un peu patiné sur cette question-là. Mais effectivement, c'est un positionnement. Mais tu sais, Mme Samson a annoncé déjà qu'elle se représentait pas. Elle a annoncé même qu'elle prenait sa retraite. Donc, c'est vraiment dans les derniers milles. Donc, c'est sûr que...
Mais là, va-tu aller? Est-ce qu'elle va devenir conservatrice? Parce que si elle ne se représente pas, en attendant, elle peut être un pion à Duhaime à l'Assemblée nationale, là?
Bien, c'est exactement. C'est pour ça qu'elle n'a rien à perdre. Et puis donc, elle, c'est une petite vengeance par en arrière.
Mais
oui. Qu'elle envoie à François Legault. Et donc, ça, c'est un peu la petite politicaillerie, mais une petite politicaillerie qui, ultimement, pourrait donner, ben peut-être pas des grandes ailes, là, mais quand même, tu sais... Un quand même pas pire turbomoteur à Éric Duhaime, qui à l'heure actuelle, bon, tu sais, on n'entend pas trop parler, là.
On n'entend pas trop parler, mais les intentions de vote ont augmenté de 2% par rapport au Parti conservateur. Il obtient beaucoup de financement, puis là, il se passe ça. Donc, je pense qu'on devrait pas trop le sous-estimer. Le Canada qui doit reconnaître tout le mal fait aux Autochtones.
Oui, ben en fait, je me suis jamais trop positionnée sur le dossier des Autochtones parce que c'est un dossier tellement complexe, tu sais, puis il y a tellement de nuances, puis tu sais, il y a plusieurs nations, puis etc. Mais là, je me suis dit non, tu sais, là, faut reconnaître les choses. Il y a eu au Canada un génocide. Tu sais, moi, j'ai fait une maîtrise en études internationales. Quand on lit les traités internationaux, puis il y a plusieurs experts par ailleurs qui le disent. Tu sais, par exemple, hier, il y avait une lettre ouverte de Fanny Lafontaine, qui est professeure de droit et titulaire de la charge de recherche du Canada sur la justice internationale, les pénales et les droits de l'homme. Donc, elle le dit également. Il y a eu un rapport qui a été déposé, puis j'ai lu ce rapport-là. C'est épouvantable, tu sais, parce que oui, on parle des pensionnats. Donc, oui, les pensionnats, on en a une preuve tangible. Tu sais, il y a des enfants qui ont été trouvés dans une fosse. Donc, tu sais, clairement, là, il y a eu la brutalité, la mortalité et tout ça. Mais quand on se met à lire les rapports, puis j'invite tout le monde à les lire parce que vraiment, là, ça va plus loin que l'entendement. Tu sais, juste pour que, comme exemple, tu sais, que j'ai tiré quelques exemples du rapport, ça dit que dans les années 1750, des primes pour des scalps d'Indiens étaient offertes en Nouvelle-Écosse par proclamation officielle pour encourager et récompenser le meurtre des Autochtones. L'autre.
En 1950,
en 1750, oui. Ça fait quand même, tu sais, ça fait un moment, mais quand même, tu sais, c'est dans l'histoire du Canada.
Ah, oui.
Ensuite de ça, 1760, donc, Amherst, gouverneur général du Canada, donne l'ordre de distribuer des couvertures infectées par le virus de la variole chez les Autochtones, ce qui réduit plusieurs populations de 50%.
Ben, c'est ça.
Donc, dans le rapport, on parle de guerre biologique, tu sais, c'est épouvantable.
Non, on a reconnu le génocide culturel. Mais là, il faut reconnaître le vrai génocide.
C'est ça. Mais c'est pas pleinement reconnu encore.
Mais Justin Trudeau en a parlé.
C'est ça. Il a dit qu'il acceptait les termes du rapport, mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé de ça? Pas grand-chose. Puis effectivement, on reconnaît pas le plein génocide.
Mm-hmm.
Là, à un moment donné, c'est sûr que c'est des mots qui font peur, mais c'est bien documenté à savoir que c'est pas juste le Holocauste. c'est pas juste au Rwanda. Ce qu'ont vécu les peuples autochtones, puis ce qui est pire, c'est qu'ils l'ont vécu sur plusieurs siècles. Et donc, ça se continue. Puis les pensionnats, ça a été fermé le dernier en 1996, là, ça fait pas longtemps. Et la loi des Indiens, c'est ça, puis la loi des Indiens qui a été adoptée en 1800, je veux dire, en 1800, à la fin des années 1800, est encore, tu sais, applicable aujourd'hui. Il y a eu des modifications, certes, mais donc le statut de l'Indien et tout ça.
Mais juste le nom, le nom devait être revisité. Puis tu sais, tu disais génocide, c'est un gros mot, puis c'est vrai que c'est un mot qui est chargé de sens. Puis pour avoir parlé plusieurs fois avec des membres des Premières Nations, puis des historiens, des anthropologues, des sociologues qui s'intéressent à ces questions-là, tu sais, il y a tout le temps la question de la culpabilité blanche qui revient. Les gens sont frileux à parler de tout ça parce qu'ils disent, ben là, j'ai pas à me sentir coupable pour des gestes qui ont été commis avant, il y a très longtemps. Mais c'est pas ça la question. C'est pas de dire qu'on est responsable de tout ça comme nous, étant nés au Canada aujourd'hui, c'est de reconnaître ce qui a été fait par nos ancêtres et de le réparer. C'est la réparation. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, pas sur la culpabilité puis sur de dire qu'on a des choses à se reprocher. Là, je pense que ça, tout le monde s'entend là-dessus, mais c'est de l'admettre puis de réparer.
Exactement. Tu as totalement raison. C'est vraiment ça. Puis surtout quand tu vois la situation des personnes autochtones au Canada. Aujourd'hui encore, tu sais, on le voit, là, les taux de pauvreté.
Oui, puis, tu sais, il faut s'arrêter ici, là, mais il y en a eu d'autres, des corps qui ont été découverts, et il y en aura d'autres. À un moment donné, il faudra regarder la réalité en face et admettre ce qui s'est passé dans les pensionnats. Merci beaucoup.
Merci.
Or. Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Alors, on joint maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Bon, Geneviève, un sujet pas mal moins rigolo. Aujourd'hui, on revient sur ce 13e féminicide au Québec. Ça, c'est sans compter le meurtre qui est survenu du côté d'Ottawa. Et encore une fois, dans le cas de Mme Piché, assassinée dans la nuit de lundi à mardi du côté de Québec, on a l'impression que ça aurait pu être évité.
Ben oui, puis j'attendais de voir un peu ce qui allait ressortir de tout ça parce que le dossier des féminicides, c'est un dossier que je suis très, très près. Puis c'est vrai, t'as raison de dire qu'on a l'impression que ça aurait pu être évité encore, que c'est facile à dire après coup, mais là, on avait vraiment des éléments, là, comme ça a été le cas, malheureusement, dans d'autres féminicides qui ont eu lieu récemment. Madame Piché, qui s'était plainte de la violence conjugale dont elle était victime à des amis près d'elle, mais qui avait été aussi dans un processus judiciaire en décembre dernier, là, cet homme-là qui avait été accusé, si on veut, de l'avoir séquestré, de l'avoir malmené, donc des voies de fait, qui s'était engagé à ne pas troubler la paix, à ne pas rentrer en contact avec elle. Et après, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment, mais j'imagine que les conditions ont été assouplies et qu'il a pu à nouveau avoir des contacts et on connaît la triste suite. Mais c'est ça, tu sais, donc on avait, si on veut, une recette parfaite pour un désastre, un homicide conjugal, une recette qu'on voit trop, trop souvent. Puis moi, je me pose plusieurs questions là, par rapport à ce féminicide-là, mais à d'autres aussi. Puis vraiment, je me pose la question, puis je ne sais pas c'est quoi la réponse, là, mais à partir du moment où tu t'en vas en cours, où tu t'en vas voir la police, par rapport à un épisode de violence conjugale, autrement dit que tu as peur pour toi, pour ta sécurité, pour ton intégrité physique, même si les procédures ne suivent pas, vont pas jusqu'au bout, même si on n'a pas ce qu'on appelle dans le jargon un 810, donc un interdit de contact, dans quelle mesure?
Parce qui n'a pas fonctionné là, dans ce
cas-ci, qui n'a
pas été dissuasif du tout.
Oui, là. Mais je pense que les conditions ont été assouplies. Là. C'est ce qui ressortait un peu de ce que j'ai pu comprendre de cette affaire-là. Mais tu sais, on a parlé beaucoup là, dans la foulée de la remise du rapport sur rebâtir la confiance de l'indice de dangerosité, tu sais, qui est mesuré souvent quand on est rendu à l'étape de la cour. Est-ce qu'on pourrait pas, quand on a des plaintes pour violence conjugale à la police ou que ça se ramasse devant un tribunal, de façon préventive, mesurer cette affaire-là? Puis tu sais, ça pose toutes sortes de questions éthiques, bien entendu, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir le considérer. Puis c'est compliqué de se mettre dans ces affaires-là parce que, tu sais, je lisais les commentaires, OK, en dessous des articles là, qui font état de ce féminicide-là et je voyais beaucoup de commentaires qui allaient dans le sens suivant. Ben, tu sais, pourquoi c'est victime de violence conjugale, elle reste avec lui, pourquoi elle n'est pas partie? Puis je pense que c'est une idée qui est largement répandue, c'est un préjugé. C'est compliqué, la violence conjugale. Je pense qu'on le rappellera jamais assez, là. Puis pour faire moult entrevues avec des spécialistes de cette question-là, des femmes qui s'occupent de maisons d'hébergement, souvent, il y a bon nombre de va-et-vient entre la situation de couple puis des moments où on quitte. Ça fait partie, si on veut, du processus. Puis il faut jamais oublier que les hommes qui font de la violence conjugale, ils font pas de la violence conjugale 24 heures sur 24. Là, ils sont pas toujours des monstres. Donc, ces femmes-là qui sont en amour avec ces hommes-là, ben, se font avoir, se font pogner, entre guillemets. Ils sont de bons parleurs souvent. On le connaît, le cycle de la violence conjugale. Là. Beaucoup de femmes ont pu en témoigner. Un épisode de violence, une lune de miel. Souvent, c'est le père de tes enfants aussi. C'est pas facile, là. Tu as des enfants avec cet homme-là, peut-être. Et peut-être dans une situation de dépendance économique aussi. Donc, c'est pas si facile que ça.
Des fois, tu crains pour ta sécurité puis celle de tes enfants aussi. Parce que là, la preuve, c'est que lorsqu'il y a des féminicides, la plupart du temps, ça arrive dans un contexte où les femmes veulent quitter.
Bon, bien, c'est ça. Puis c'est là où je m'en viens. Là, le fameux contexte de séparation, post-séparation, puis il y en a eu beaucoup de sorties récemment pour parler de ce moment-là qui est le plus dangereux là, pour les éventuelles victimes de féminicides. Parce que vraiment, là, on veut reprendre le contrôle. Là. Et le meurtre, c'est la façon suprême de reprendre ce contrôle-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes-là? Puis, tu sais, Geneviève Guilbeault a fait une déclaration qui a fait réagir. Elle a dit les ressources sont là, mais on ne pourra pas tous les éviter, faisant référence évidemment aux féminicides. Ça a fait bondir beaucoup de personnes qui travaillent avec les femmes victimes de violences conjugales parce que je le comprends ce bout-là, là, puis je comprends aussi ce que Mme Guilbeault voulait dire. Elle voulait dire que malheureusement, peu importe ce qu'on va faire, on va toujours en échapper. Puis tu sais, je pense que malheureusement, elle a raison, mais je comprends aussi les victimes de violences puis les maisons d'hébergement d'avoir été heurtées parce que c'est comme si tu mettais entre les mains des victimes la responsabilité de quitter. Puis Mme Guilbeault a été la première à dire, tu sais, que les proches, on a notre rôle à jouer là-dedans. Puis je pense que c'est ce qui ressort là, des entrevues que j'ai faites ces derniers jours sur la question, c'est de dire, tu sais, mettons, là, Marc-Claude, on a quelqu'un autour de nous, là, toi puis moi, on a un couple d'amis qui se séparent, là, puis ça va pas bien, OK? On le voit, là, le gars, il prend pas pantoute. Puis c'est notre ami aussi, le gars, là, puis on se dit, il ferait jamais ça.
Mais on veut pas trop se mêler des affaires des autres, mais.
Puis on
le
sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On sait pas dans quelle spirale cet homme-là peut être plongé, une dépression, il va pas chercher d'aide. On voit que, mettons, il s'isole et tout ça. Tu sais, puis on l'a vu aussi, moi, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé avec la DPJ pendant la pandémie. Tu sais, on nous a dit, signaler, c'est mieux de signaler, puis s'il se passe rien, au pire, on fait une vérification, puis c'est tout. Même affaire pour la violence conjugale, puis j'ai envie de dire aux gens, là, tu sais, les ressources comme SOS violence conjugale, là, on peut appeler, hein, même si on n'est pas victime de violence conjugale, si on est inquiet pour un proche, dire, moi, je pense que mon ami est peut-être victime.
Pour peut-être avoir des trucs.
Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense que c'est là. On a notre rôle à jouer.
T'as bien raison. Merci beaucoup, Geneviève.
Merci.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
On prenne quelques minutes pour parler du cas des poulets là, qui sont euthanasiés. On est rendu à 1 million de poulets euthanasiés parce qu'il y a un conflit de travail là, avec les employés d'Exceldor. On en a parlé avec Dany Saint-Pierre à quelques reprises. On sait que les conditions de travail de ces gens-là sont difficiles. Mais là, qu'on refuse l'arbitrage, je trouve que dans la game des perceptions, là, c'est vraiment pas fort. Pour vrai, non seulement ça, mais on est en train de gaspiller des quantités phénoménales de nourriture pour faire son point. T'sais, à un moment donné, il faut s'entendre. Là. Je peux pas croire qu'on va jeter 1 million de poulets au vidange, que ça va continuer et qu'on ne va pas faire preuve de bonne volonté du côté des syndicats. Là. Je trouve qu'en ce moment, c'est du niaisage, c'est du focaillage. Puis, je veux dire, il y a des gens qui mangent pas. Là, puis ça a l'air épouvantable à dire, puis c'est un argument que je pourrais sortir à un enfant de deuxième année, mais c'est, n'empêche que c'est vrai. Là. Il y a du monde ce soir qui va arriver chez eux, puis ils n'en ont pas de manger. Puis pendant ce temps-là, nous, on euthanasie des poulets parce qu'on n'est pas capable de se parler à une table de négociation. Pour vrai, ça me met hors de moi. Léa Strelitzky est là. Salut, Léa.
Salut, Geneviève.
Excuse-moi, il fallait que je pogne les nerfs sur les poulets. Je trouve que ça n'a aucun sens. Tu voulais qu'on se parle de Claire Samson qui a été exclue de la CAQ. J'ai envie de dire qu'elle a fait un bel acte manqué, Mme Samson.
Bien, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est-tu calculé? Est-ce que c'est un acte politique? Est-ce que Éric Duhaime a un plan caché en arrière? Parce que j'avoue que, bon, elle maintient que, comme tout citoyen, elle a complètement le droit de faire un don de 100 $ à un parti.
Ben là.
Mais je veux dire, ça, c'est ce qu'elle maintient. C'est vrai. Maintenant, ça peut paraître complètement déloyal envers son propre parti.
Donc, son explication tient semi la route. En même temps, on ne connaît pas ses réelles motivations. On pourrait essayer de faire des liens en cherchant dans son passé. Bon, Madame Samson, elle vient du milieu de la télé quand même. Beaucoup, elle a travaillé pour Radio-Canada. Puis, je veux dire, est-ce qu'elle essaye d'aider Éric Duhaime?
Léa, tu sais, ça a toutes les apparences d'une petite vengeance. Là. J'en discutais tantôt avec ma collègue Elsie Lefebvre. N'ayons pas peur des mots quand même. Là, Madame Samson était fâchée de ne pas être la ministre de la Culture. Puis elle l'a en travers de la gorge depuis des années. On sait, là, il y a un article sur Radio-Canada qui est paru ce matin sur ce cas-là, puis qui faisait état du maraudage d'Éric Duhaime en ce moment, qui veut aller chercher un siège à l'Assemblée nationale pour avoir une voix au point de presse, pour peut-être accéder au débat des chefs. Il n'a pas juste approché Mme Samson. Là, ça a l'air qu'il va aller s'asseoir avec des députés libéraux, des gens qui ne sont pas contents dans les partis. Il y en a tout le temps. Donc, il essaye de tirer parti de ça, pogne du monde en fin de carrière. Parce que Mme Samson, là, en tout cas, aux dernières nouvelles, elle a dit qu'elle ne se représentait pas aux prochaines élections. Fait que dans le fond, il cherche des pions. T'sais. Puis elle, oui. Ben, quand tu es fâchée, t'es facile à revirer ta veste. T'sais.
Ben c'est ça. Parce qu'on se souvient que elle pensait, elle, qu'elle ferait partie des enveloppes ministérielles, puis finalement, elle n'en faisait pas partie. Elle avait pris un arrêt de maladie. Elle souffre d'épilepsie. Puis elle avait dit, même elle avait des liens directs entre ses crises d'épilepsie et le stress que ça lui avait occasionné de ne pas devenir ministre. Bon, tout ça est peut-être fait à gros traits, là, donc tout ça est évidemment débattable, puis c'est elle qui le dit. Cela dit, c'est quand même un petit peu pathétique. Je veux dire, il y a quelqu'un qui dirait que c'est probablement que la politique, c'est ça, puis c'est du jeu de coulisses, puis c'est de l'enfantillage quelque part, parce que à un moment donné, je veux dire, il y en a combien des gens qui sont députés puis qui pensent qu'ils vont devenir ministres puis qu'ils le sont pas? C'est une raison pour se venger plusieurs années plus tard. House of Cards dirait que oui, mais à un moment donné, je trouve ça un petit peu pathétique. Après, quand on l'interroge sur le fait que sur son copinage avec Éric Duhaime, ses récentes conversations avec lui, elle dit qu'elle n'est pas toujours d'accord avec, mais que les Québécois ont le droit d'avoir un choix.
Le choix de quelqu'un qui est contre les mesures sanitaires, qui fait, à mon sens, des déclarations dangereuses. Le roi de la démagogie, par ailleurs, là, on se rappelle.
Le roi de la démagogie.
Moi, je me rappelle du post qu'il a fait à mon sujet par rapport à un voyage dans le Sud que j'ai fait parce que j'avais dit que j'allais essayer ça, les resorts. Puis la seule fois où je suis allée, j'ai pris une photo de moi sur la plage. Il l'a ressorti, fait un long post. Et qu'est-ce que tu penses qui s'est passé?
Des chars de merde.
Des chars de merde, Léa. Je veux dire, j'ai dû porter plainte à la police, là. Tu sais, je veux dire, puis il y a un événement qui s'en va en cours, puis c'est directement lié à tout ça. Donc, tu sais, à un moment donné, Éric Duhaime, là. Tu sais?
Je le sais. C'est souvent des espèces de méthodes de communication complètement tordues. Il reprend des arguments, puis il les met à sa propre sauce, puis après, il avait fait ça avec moi aussi. Il fait des posts, puis après, tu reçois des commentaires et des commentaires négatifs à n'en
finir.
Bref, si c'est ce genre de choix que les Québécois veulent avoir en politique, moi, je pense pas. Claire Samson, sérieusement, si elle fait juste des petites vengeances personnelles, puis qu'après, ça peut avoir des conséquences vraiment négatives sur le dialogue social, puis que ça se rend jusqu'à l'Assemblée, je trouve ça pathétique, je m'excuse. Je trouve que c'est une vengeance qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'on lui a fait. Je comprends pas, puis je comprends que c'est de la politique, puis qu'Éric Duhaime se magasine un siège, mais après aussi, c'est pour les gens d'Iberville. Mme Samson, elle représente les gens d'Iberville, je veux dire.
Mais elle va continuer de siéger comme indépendante. Est-ce qu'elle va se joindre à la formation d'Éric Duhaime pour la fin de son mandat? Peut-être.
Oui, mais t'imagines-tu être dans ce comté-là, puis t'as voté pour la CAQ, puis finalement, tu finis par être représenté par quelqu'un qui est pour le Parti conservateur du Québec.
Effectivement.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être bien déçus. Puis je trouve ça un petit peu tordu qu'on puisse faire ça aussi. À un moment donné, je sais pas, pendant un mandat, tu te voter pour un parti. Ce parti devrait continuer à te représenter.
Je sais pas c'est quoi la règle. Non, mais je sais que tu peux t'en aller comme députée indépendante. Je sais pas si c'est quoi la règle, si Mme Samson a le droit de se joindre à une autre partie. Je vais demander à Mario Dumont en sortant. C'est sûr que lui, il sait.
Elle a dit qu'elle y réfléchissait, qu'elle n'était pas rendue là encore.
Elle se présentera pas pour un autre mandat. C'est ce qu'elle a dit, parce qu'elle va joindre la formation de M. Duhaime entre-temps. Ben, en tout cas, mon petit doigt a l'air de me dire que oui. On se parle de vélo, le rêve à Montréal, oui, qui est très populaire. Je voyais, tu sais, près de chez nous, on a des petites bornes là, qui mesurent le nombre de cyclistes qui passent par jour. Mon fils aime beaucoup faire le décompte de tout ça. Il y en a beaucoup.
Eh oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est très populaire. On s'y attendait. Montréal essaye de se moderniser. Puis, à force de créer de la frustration envers les automobilistes, parce qu'on va le dire, être automobiliste à Montréal, ça n'est pas facile. Il y a beaucoup trop de voitures. Comme il y a trop de voitures, il y a de la congestion, il y a des travaux, ça coûte cher, se garer, c'est difficile. Donc, toute cette frustration fait qu'évidemment, à un moment donné, s'ils naissent des moyens alternatifs et le fun, ben les Montréalais les utilisent. Quelle surprise! Donc, c'est ça qui arrive. Il y a environ 6000 personnes qui ont utilisé le rêve le 2 juin. Ils ont calculé ça dans ce bout-là.
Mais c'est-tu beaucoup? Puis, c'est pas beaucoup, 6 000. Dans ma tête, les millions à Montréal, ça me semble peu.
Ben apparemment que c'est juste un début. Puis évidemment, la pandémie, ça a tout changé, là, les habitudes des gens. Donc là, on est en train de retrouver des habitudes...
Le trafic est revenu très, très vite, là, Léa, pour vrai. Moi, je le vois tout de suite. Puis, une affaire qui est plate aussi, là, moi, comme cycliste, je l'expérimente, c'est que le trafic sur les pistes cyclables, ça peut être aussi irritant, là, aux lumières, entre autres, là, sur Rachel, à un moment donné, des gros tapons de monde. Tu peux être installé là un bon moment, là. C'est pas non plus une panacée, là. Faut qu'il y en ait plus de pistes cyclables, tu sais, pour éviter ça.
C'est qu'il faut qu'il y ait plus de pistes cyclables, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Après, bon, c'est sûr que ça dépend des heures auxquelles on circule. Là. L'heure de pointe, je pense qu'on ne se débarrassera pas de ça. Si tout le
monde... Ben moi, quand je m'en vais d'ici, là, aux alentours de 3h30, ça commence. Là. C'est la sortie des écoles, en plus. Là. Fait qu'il y a du monde, il y a des petits-enfants. Puis là, tu ne veux pas être impatient. Mais les petits-enfants en avant, là, ils vont pas vite. Puis là, ils zigzaguent. Puis là, tu sais jamais où ils vont se garocher. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je suis la madame impatiente qui veut dépasser tout le monde sa piste.
Mais toi, tu es en vélo électrique, c'est ça?
Ouais, mais moi, je pédale quand même. Moi, je ne mets pas, l'assistance électrique au max parce que je veux quand même faire le sport en me déplaçant. Mais, mais c'est sûr que oui, tu sais, quand tu as des enfants, une poussette. Puis, OK, on peut-tu arrêter de marcher dans piste cyclable? Pour vrai, là, l'autre fois, en m'en revenant d'ici, là, j'ai accroché une fille, parlait au téléphone avec ses écouteurs, marchait dans piste cyclable, m'a jamais entendu arriver. Puis, j'ai accroché son téléphone et j'aurais pu y faire très mal. Là, j'arrivais à 35 km/h, tu sais.
Ah ouais, non, c'est non. On n'est pas supposé marcher dans les pistes cyclables. Puis moi, c'est les vélos, c'est les espèces de petites mobilettes électriques là, qui me font peur. Ouais,
qu'est-ce qu'ils font là, eux autres aussi? Il faut respecter les gens. Là, tu vas pas trop vite sur la piste cyclable. Mais c'est ça, fait qu'il y a une espèce d'éthique de circulation, puis c'est pas tout le monde qui est en même place. Là. Puis ça, c'est Montréal. Tu l'as dit, là, on est une ville un peu vélo. Cette semaine, on disait qu'à Laval, c'était difficile d'implanter la culture du vélo. La ville fait des efforts. À ce niveau-là, on dirait que c'est moins ça dans les autres villes. Comment on pousse des villes plus petites à adopter, puis là-bas, c'est quasiment même pas plus petit que Montréal, mais comment on les pousse à adopter ce mode de vie-là, selon toi?
Ben, tu sais, je veux dire, c'est des villes qui ont été entièrement bâties pour les voitures.
Ben,
là.
C'est ça.
Il faut que ça soit pratique de changer de mode de fonctionnement, mais tu sais, moi, je le vois, là, souvent, je travaille à Laval, puis je vois comment les pistes cyclables sont faites, puis tu sais, les boulevards sont immense, c'est tellement large. J'aurais peur là, de faire du vélo, là, c'est sûr. Là. Fait que c'est une culture qui se change, mais c'est aussi les infrastructures, puis c'est aussi qu'est-ce que tu as besoin de faire. Puis c'est immense, là, donc ton trajet il est beaucoup plus long. Donc, je pense que ça va venir, mais sauf que les banlieues ont été 1000 fois plus construites pour les autos que la ville. Nous, il y a des quartiers résidentiels qui existaient avant les voitures, mais les banlieues, c'est pas exactement ça. Donc, je sais pas ce que ça va leur prendre, mais en tout cas, au moins, on voit que les gens veulent, tu sais. Je pense que. Puis,
on est-tu pogné dans notre algorithme? Moi, j'ai l'impression aussi que les gens veulent, mais c'est pas tout le monde qui veut faire du vélo, là, mettons. T'sais, moi, je veux en maudit, là, parce que regarde bien qu'est-ce que je fais. Là. Moi, je viens ici en vélo, je repars, je m'en vais chez nous, puis je prends ma voiture pour aller chercher les enfants à l'école parce que c'est trop loin. T'sais, fait que, t'sais, faut quand même y mettre un peu du sien là, si on veut que ça arrive.
Mais il faut y mettre du sien, mais c'est aussi qu'une fois que tu commences à le faire, tu te rends compte que c'est bien plus agréable que ce que tu pensais, moi, je pense.
C'est t'sais, tellement
fun. Il y a bien des affaires où est-ce que tu penses que c'est des sacrifices, mais vraiment, le faire du vélo à Montréal, c'est vraiment du fun.
Mais dans des pistes cyclables.
Je jamais que je dirais ça. Oui, mais dans des pistes cyclables, mais même dans plein de petites rues. Là,
ah, dans les petites rues. Oui, il y a un sentiment de liberté incroyable. Puis moi, je suis une vraie boomer, là. Je m'assume totalement. Là. Mon vélo électrique, mes petites sacoches pour faire mes commissions, puis bientôt mon banc pour mettre mon chien. Là. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte.
Tu peux changer ta vie comme ça. Là.
Ben, c'est ça. Suffit de
ça donne un sentiment de vacances, même quand tu travailles, je trouve.
Ben, c'est vrai, puis ça donne... Tu sais, moi, quand j'étais dans le trafic, je stressais, j'écoutais la radio, et nanana. Là, je suis sur mon vélo, je décroche, j'écoute pas de radio, puis ça me fait faire du sport. Donc, c'est incroyable. On invite tout le monde à se promener en vélo.
Même un tout petit peu, ça change ta vie.
Oui, il faut pas avoir peur. Commencez par les pistes cyclables, puis allez-y aux heures pas trop de pointe, vous allez voir, ça va bien aller. Merci, Léa.
Exact. Merci, Geneviève, à bientôt. Bye.
Les autres. Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Et je suis avec Karl Marchand. Est-ce que tu comptes les dodos jusqu'à lundi?
Évidemment, car j'aurai l'honneur d'accompagner Dany Saint-Pierre tout l'été aux nouvelles. Mais je voudrais d'abord commencer par quelque chose de plus important que ça.
Oui, être avec moi, mais...
En mon nom et au nom de ma famille, bonne fête, Geneviève.
Ah, t'es fin, mais pourquoi bonne ta fête. Famille? Toute ta famille?
Non, je le dis ça. C'est bien cute. J'aime bien prendre cette formulation-là. Ça rend ça un peu plus officiel, mais je dois avouer que je n'ai pas consulté tous les membres de ma famille qui te souhaitent bonne fête à leur insu.
Oui, puis tu viens du lac, fait que... On est peut-être parents, puis on le sait pas. Hein?
Et ça m'étonnerait beaucoup parce que ma famille n'est pas originaire du royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je veux te dire aussi, changement d'à propos, que chaque fois que je viens faire les nouvelles dans ton émission, je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'un peu insolite qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'on puisse partager cet amour de notre royaume. La seule chose que j'ai vue, là, c'était un incendie très fort dans le coin de la Chute des Passes. On sait que la saison des feux de forêt est très forte cette année.
Ouais.
J'en profite pour lancer un conseil aux campeurs. Soyez prudents.
Et on ne se fait pas de feu, là. Sérieusement.
Ben, il y a des interdictions de feu à ciel ouvert dans plusieurs régions. Et soyez prudents. Et aussi, je te lance le même avertissement qu'on m'a lancé sur mon balcon hier soir. Éteignez pas vos cigarettes dans les bacs à fleurs.
Ben oui, OK. Puis tout le monde sait ça, là.
Et ça, moi, je le savais aussi, mais je le répète.
Tu vois que tu fumes, Karl Marchand.
Ben là, ça arrive.
Franchement.
Ben, des fois, c'est pas la cigarette, là, tu comprends. Mais c'est légal, évidemment.
Caline, mais un autre drogué à queue.
Ceci étant dit, c'est ça, n'éteignez pas vos cigarettes ou autres objets de fumeur dans les bacs à fleurs.
T'es tellement pertinent. Bon, on continue sur notre lancée de nouvelles insolites. Juste avant, là, je vous dis, pour ceux qui pensent que les politiciens ont le droit à des passe-droits, Justin Trudeau qui revient de son séjour là, en terres européennes, il va falloir qu'il fasse sa quarantaine comme tout le monde. Là, 13 jours, il ne pourra pas sortir de chez eux. Donc, avec Sophie, j'imagine qu'ils vont faire des chansons, des rondes.
Ben, techniquement, est-ce que Sophie était... J'ai pas vu, je pense pas que Sophie était avec elle en Europe. Avec le groupe en Europe.
Ah, oh mon Dieu. S'il va devoir vivre séparé de Sophie, de Trigor Trudeau pendant 13 jours. Mais possiblement. Je pense qu'ils sont habitués.
Et par ailleurs, Trudeau, je te le mentionne, il est arrivé hier au pays. Il est sorti de l'hôtel ce matin. Donc, les conservateurs s'interrogent, a-t-il eu droit à un traitement de faveur? Parce que parfois, il y a des gens qui ont patienté très longtemps avant d'avoir le premier test négatif.
Je ne sais pas si le premier ministre a le droit à un traitement de faveur. Hein?
Possiblement.
En tout cas, une recette d'asperges à une drôle de place.
Tu as eu un long parcours à l'université, toi, Geneviève.
Quand même assez long, oui.
Je pense pas qu'il t'est arrivé de faire de copier-coller au mauvais endroit.
Ça m'est arrivé de surprendre des étudiants en fer.
Voilà, mais quand on fait un copier-coller, il faut s'arranger pour pas se faire pogner. Bien, il y a probablement des gens en Belgique qui vont se faire taper sur les doigts parce que dans un projet de loi assez important, il y a une recette d'asperges enroulées de fromage qui s'est retrouvée.
Oui.
Une recette d'asperges enrobées de fromage fondu et c'est dans un texte législatif et... Évidemment, heureusement, là, c'est pas le texte officiel du projet de loi.
OK.
Parce que...
Mais moi, ma seule question, c'est est-ce que c'est une bonne recette?
Bien, je l'ai pas essayé encore, mais laisse-moi trouver
la... En fin de semaine,
c'est écrit petit un peu, là, mais...
Tu vas tester ça.
Préchauffer le four à 250 degrés dans un grand volume d'eau, additionner 2 cuillères à café de sel, faire cuire les asperges que vous aurez rincées, épluchées. Dans une casserole portée à ébullition, la crème avec le concentré de tomate, ajouter un peu de paprika, salé, poivré.
C'est déjà bien trop compliqué, là.
Tout ça dans un... Non. Là, t'es mère de famille, évidemment, t'as pas le temps de...
Ben, j'ai le temps de faire bien des affaires, à commencer par des recettes d'asperges qui sont vraiment plus délicieuses que l'introduction que tu viens de nous en faire.
Ouais.
Donc, soyez vigilants quand vous faites des copier-coller.
Surveille le copier-coller, oui. C'était un arrêté royal fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, de notification des prix, des objets...
Excuse-moi.
Bref, il y a rien à voir avec les asperges là-dedans.
Qu'est-ce qui se passe avec J-Lo puis Ben Affleck? Là? C'est comme... ils sont-ils revenus ensemble? Ils ont-ils déjà sorti ensemble? Qu'est-ce qui se passe?
Ils ont évidemment été
consommé?
Ils ont consommé à l'époque. Laisse-moi te rappeler, le couple chéri des paparazzis s'est rencontré sur le tournage de l'excellent film Gigli en 2002.
Je m'en rappelle. J'avais oublié l'existence de ce navet cinématographique.
Et Gigli, et à partir de là, bon, évidemment, ils ont été ensemble, se sont séparés. Et là, dernièrement, J-Lo s'est également séparée de A-Rod.
Oui, mais
Ben là, ça fait un certain temps. Puis bon, la rumeur courait qu'ils n'étaient plus ensemble depuis un bon bout de temps.
Oui.
Eh bien, Ben est revenu.
C'est incroyable.
Ils ont été vus. Ils ont été vus. Ils se sont embrassés goulûment.
Rapprochement de toutes sortes.
Wow.
Ils se sont embrassés goulûment dans un party d'anniversaire pour la sœur de J-Lo qui célébrait ses 50 ans. Alors,
j'attends juste que Brad Pitt et Angelina reviennent... pas Angelina, mais Jennifer. J'attends que les deux sont très amis. Là. J'attends qu'ils reviennent ensemble, mais je pense que Brad Pitt, il aime juste ça sortir avec des filles de 19 ans.
Dans les deux cas, est-ce que Brad revient avec Angelina ou Jennifer?
Mais avec Angelina, ça serait plus difficile. C'était qui aussi? As-tu déjà sorti avec Uma Thurman? On est dans la nostalgie même au niveau des ex.
Il y a beaucoup d'articles clickbait sur toutes les blondes de Brad Pitt.
Ah, pour vrai?
Ah, oui, ça, il y en a plein.
As-tu vu l'article clickbait sur Leonardo DiCaprio?
Oui.
Lui, son âge avance, mais l'âge de ses blondes ne change pas. Son stallé à 19 ans, lui aussi.
Je l'ai vu, et pas juste une fois.
Ouais, c'est ça. Avec Carl Marchand, on t'égoutte sur des sujets un peu plus pertinents avec Mario Dumont dans quelques instants. Merci à l'équipe de recherche, Frédéric Mocolle, Maud Boutet, Luc Fortin, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. À demain, à 13h.
Cube Radio.